With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir dans Soir Info jusqu'à minuit sur CNews pour débattre, discuter des grands thèmes d'actualité. À la une ce soir, c'est la plus faible mobilisation depuis le début de la contestation contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, seuls 281 000 manifestants ont défilé dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur, un chiffre en forte baisse par rapport aux 112 000 personnes présentes le 1er mai. Dans toute la France, des cortèges ont défilé sans incident notable, excepté à Nantes et à Paris où quelques heures ont été censé en fin d'après-midi. On fera le point dans ce Soir Info. Édouard Philippe sort de l'ombre et prend le risque de susciter une belle polémique. Dans un entretien à l'Express publié hier, le président d'Horizon, ancien Premier ministre bien sûr, prône la remise en cause de l'accord de 1968 avec l'Algérie sur les questions migratoires. Il distille plusieurs prises de position contre une immigration, je cite, du fait accompli, alors que le sujet agite la majorité et la droite. Édouard Philippe est-il d'ores et déjà en campagne? Nous en discuterons avec les invités. Et puis ils sont en grève depuis 8 mois. Le personnel du service de sécurité et sûreté de l'accueil de l'hôpital Saint-Jacques de Nantes dénonce des conditions de travail inacceptables dans le contexte du drame de Reims où une infirmière est morte poignardée par un homme atteint de troubles mentaux. Les professionnels de la psychiatrie espèrent une réaction forte de la direction, mais leurs revendications restent lettre morte. Nous les entendrons sur CNews tout à l'heure dans ce Soir Info. Karima Brick est parmi nous ce soir. Bonsoir, cher Karima, de la rédaction de CNews. Benjamin Morel également pour évoquer cette actualité, maître de conférence en droit public. Patrick Priva nous fait le plaisir de sa présence également. Ouais. Trésorier confédéral FO. On s'intéressera particulièrement à ce mouvement de contestation contre les retraites et cette 14e journée de mobilisation avec vous, monsieur. Mathieu Vallet également nous apportera son expertise, son regard sur cette journée. Porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Et puis on n'oublie pas Jean-Sébastien Ferjou qui a son utilité parmi tous ses invités aussi, évidemment, qu'on aime entendre et dont on se délecte des analyses, n'est-ce pas, cher Jean-Sébastien, directeur d'Atlantico. Voilà pour les présentations. Est un tout petit peu en retard. Pardon, Adrien Spiteri, le rappel de l'actualité.
Emmanuel Macron a célébré le 79e anniversaire du débarquement. Il a rendu hommage au commando Kieffer. Le chef de l'État a participé à une cérémonie à Colville-Montgomery en compagnie de la première ministre Elisabeth Borne. Il a ensuite participé à l'inauguration du nouveau musée du débarquement. La lutte contre le harcèlement sera la priorité de la rentrée 2023, annonce de la première ministre Elisabeth Borne aujourd'hui. De son côté, Pape Ndiaye a promis des moyens supplémentaires. Il a reçu hier la famille de la jeune Lindsay. Pour rappel, l'adolescente a mis fin à ses jours le mois dernier. Et puis clap de fin pour Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. L'entraîneur a été informé de son départ après une saison compliquée. Plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer. L'ancien coach du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, serait la priorité.
Allez, une très courte pause et on se retrouve avec les invités pour évoquer cette 14e journée de mobilisation. Quelles conséquences? Quelle suite? On y revient tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Karim Abrik, Jean-Sébastien Ferjou, Benjamin Morel, Patrick Priva, Mathieu Vallet. 281 000 manifestants selon le ministère, 900 000 pour les syndicats. La 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites marquée par le plus faible niveau de participation depuis le début du mouvement. D'après les chiffres des autorités, donc comme ceux des syndicats, plus d'un mois après le 1er mai, les cortèges étaient donc plus épars partout en France. 31 000 manifestants recensés à Paris pour la préfecture. Pour conclure les chiffres, donc dans toute la France, les cortèges ont défilé sans gros incidents notables, excepté à Nantes et à Paris, où quelques heures ont été recensées en fin d'après-midi. Résumé justement de la journée parisienne avec nos équipes.
Dans les rues parisiennes, le cortège était moins dense que d'habitude cet après-midi. Mais pour les manifestants et syndicalistes présents, la lutte n'est pas terminée. Au contraire, selon Frédéric Souillot, secrétaire général de Force ouvrière, elle se poursuivra.
En 2006, pour le CPE, on disait que c'était peine perdue, que Jacques Chirac et Dominique de Villepin ne reculeraient jamais. Et pour autant, ils ont reculé. Donc il faut continuer la mobilisation. Et la page n'est pas tournée, nous ne tournons pas la page.
De son côté, Jean-Luc Mélenchon fixe le cap à jeudi prochain où l'Assemblée nationale examinera la proposition de loi du groupe Liot.
Il y a encore un débat qui va avoir lieu à l'Assemblée. Nous allons le mener jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Si nous gagnons, nous aurons gagné. Si nous perdons, la lutte continuera.
Pas certain néanmoins que le combat continue sous la forme de grandes manifestations, selon Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, un brin défaitiste.
On va voir ce qui se passe après-demain à l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ça, on ne va pas se raconter d'histoire. Moi, j'adorerais vous dire qu'on est capable de refaire une mobilisation à 2 millions de personnes la semaine prochaine. Ce n'est pas vrai, parce que les travailleurs et les travailleuses, on ne peut pas leur mentir. Ils sont lucides. Cette réforme, elle est malheureusement promulguée et les décrets 64 ans sont publiés. C'est une réalité.
Il annonce par ailleurs que l'intersyndicale existera toujours à l'issue de cette lutte. Les principaux syndicats continueront à travailler ensemble sur d'autres combats.
Un mot d'abord, Mathieu Vallet, avec vous sur l'aspect sécuritaire. On l'a dit, on est bien loin de ce qu'on a aperçu, ce qu'on a vu, ce qu'on a déploré surtout le 1er mai. Et pourtant, il y a quand même eu quelques heurts, quelques violences de la CAS. Je rappelle que le dispositif était conséquent. 11 000 policiers en toute la France, 4 000 à Paris. On attendait 1 000 éléments à risque. A priori, ils étaient un petit peu moins nombreux tout de même. On va résumer en disant que ce n'était pas la mobilisation des grands jours, mais les Black Blocs étaient tout de même au rendez-vous.
Oui, ce soir, on peut se satisfaire qu'on ait...
Je crois que deux CRS ont été blessés aussi.
Tout à fait, on peut se satisfaire que ce soir, on ait très peu de blessés parmi les policiers et les gendarmes. C'est vrai que les bilans qu'on avait connus le 1er mai, le 23 avril, où on était entre 400 à 500 policiers et gendarmes blessés, dont le 1er mai, Nasser, ce policier qui a été brûlé vif lors des manifestations avec cette tentative de meurtre, effectivement, ça faisait réfléchir. En fait, sur le bilan...
On voit quelques images aujourd'hui, hein, où il y a toujours ces ultras qui veulent...
Tout à fait,
même
ouais. Sur le bilan en fait sécuritaire, effectivement, c'est beaucoup mieux que ce qu'on a pu connaître ces dernières semaines, notamment depuis que le gouvernement a entamé le 49-3 à l'Assemblée, où réellement on démarrait les exactions et les violences durant les cortèges, notamment ce Sauvage la Nuit. Ce qui marque aujourd'hui, c'est que en fait, dans les cortèges, que ce soit à Lyon, que ce soit à Paris, on a des policiers qui ont été visés par des pavés à la tête par des individus qui ne sont pas ni des manifestants ni des délinquants, mais qui sont des criminels. Quand on vise un policier ou même un pompier, il y a des pompiers avec la brave à moto qui étaient en train de circonscrire un incendie que vous montrez sur vos images, notamment, et qui ont été pris à partie par des individus violents. Et en fait, il faut savoir que quand on envoie un pavé dans la tête d'un policier ou un pompier, c'est rarement pour lui dire je t'aime ou pour envoyer des fleurs, mais c'est vraiment pour le tuer. En tout cas, c'est comme ça que ça doit être retenu. Et c'est ça aujourd'hui qui me choque, c'est que dans les cortèges, on a des gens qui viennent pour se faire du policier et maintenant du pompier, alors que ces gens-là sont là pour protéger, pour sauver des vies et pour permettre à ces cortèges de se dérouler sans incident.
Je voulais dire un mot également de ce personnage, de cet individu, parce que parmi les quelques personnes interpellées aujourd'hui à Paris, l'un des prévenus de l'affaire de la chocolaterie Trogneux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça cet après-midi. L'un des trois prévenus qui lui a été relaxé, l'homme de 22 ans, il a fait quand même 3 semaines de détention provisoire avant le jugement hier au tribunal. Et donc, il est relaxé. Très bien. Enfin, voilà, la justice est passée. Le lendemain, il prend le train pour venir à Paris. Il a été interpellé pour port d'armes, a priori. Bon, là, on parle d'une arme. C'était des gants coquets. C'est comme ça qu'on appelle ça. Bon, c'est sûr que ça peut être une arme par destination quand on les porte. Il aime vivre dangereusement, ce monsieur. Je vous avoue que les bras m'en sont tombés. Je me dis que cette personne a quand même quelques petits problèmes de discernement.
Non, mais l'affaire de monsieur Trogneux, qui est la victime à Amiens des agissements de deux individus, puisque l'individu dont vous parlez, qui a été interpellé à Paris pour un port d'armes prohibé et des gants coquets, c'est une curieuse manière d'exprimer sa participation démocratique dans une manifestation qui est garantie par la Constitution. Et c'est surtout qu'en fait, moi, j'aurais aimé que...
Il n'a pas manifesté, hein, puisqu'il a été interpellé.
Non, bien sûr, il a été interpellé avant, comme quoi le dispositif de contrôle en amont est efficace par la police régionale des transports ou par les policiers qui sont mis en amont en sécurisation. Mais en fait, l'affaire de M. Trogneux, telle qu'elle a été traitée par la justice, rapide, éclair, implacable, exemplaire, c'est la justice qu'on aimerait pour tous les citoyens, y compris pour les policiers et les gendarmes qui sont blessés. C'est ce que nous, on réclame en syndicat de police. Quand on demande des peines minimales, quand on demande un déferment systématique devant un magistrat, quand on demande une condamnation, l'exécution de la peine, une incarcération même pour des courtes peines, c'est exactement ce qu'il y a eu dans l'affaire Trogneux. Et d'une certaine manière, vous voyez bien que cet individu qui avait été relaxé, donc absence de preuves et donc innocenté par la justice, on voit bien que derrière, il sort du tribunal et il recommence. Comme quoi, ce que certaines fois je peux dire sur certaines affaires ou sur certains dossiers, c'est pas des paroles vues de l'esprit, mais c'est une réelle réalité. Vous imaginez qu'il sort hier du tribunal, hier soir, puisque le verdict a été
incroyable.
Rendu hier soir, que dès le lendemain, il vient dans une manifestation.
Et puis il était en posture de victime au tribunal, hein, en disant qu'il était innocent, qu'il est d'ailleurs un pseudo-journaliste indépendant sur les réseaux sociaux. On apprend de lui qu'il ne sait ni lire ni écrire, donc on peut décemment se poser des questions, en effet, sur son discernement. Et le lendemain,
la profession de journalisme.
Il se jette il se jette de nouveau dans la gueule du loup. Une autre image que je voulais vous montrer concernant les faits de violence ou les symboles qui ont été attaqués aujourd'hui. Je voulais vous montrer cette image des CRS qui protègent la fameuse rotonde. Et là, j'ai envie de m'adresser à vous, Patrick Privat, quand même. Des CRS qui protègent une brasserie parce que il y a 6 ans, le président de la République est allé boire un coup pour célébrer un entre-deux-tours. Vous vous rendez compte du niveau des symboles qui sont attaqués, quand même ? Franchement. Je vous fais réagir parce que vous étiez dans le cortège, mais que vous ne faites absolument pas partie des individus qui s'attaquent à ce genre de symboles. Vous étiez dans le cortège normal, entre guillemets, bien sûr, mais c'est votre regard qui m'intéresse sur des...
Tu es en train de regarder pour voir ce
que je voudrais images. Qu'on revoie cette image des cordons de CRS pour protéger une brasserie parce qu'il y a 6 ans, le président de la République est allé boire quelques verres. Qu'est-ce que ça nous dit ?
Ça nous dit que des manifestations doivent être déclarées, parfaitement organisées. C'est ce qu'on fait. D'ailleurs, le parcours a été fort décrié, le parcours d'aujourd'hui.
Parce qu'il passait.
Parce qu'on passait devant l'Assemblée nationale. Alors moi, je n'étais pas dans le parcours, ça c'est le parcours de tête, certainement. J'étais dans l'autre parcours. On a marché très vite, fait qu'il y ait un peu moins de monde, et on n'était pas gêné par des personnes devant. Bon, ça c'est du classique, on connaissait un peu partout, mais pas uniquement à Paris. Vous l'avez à Lyon, vous l'avez des fois à Nantes, vous l'avez des fois à Rennes. Vous avez des individus qui sont prêts à tout casser, pour le plaisir de casser. Ce qui n'est bien entendu pas acceptable et parfaitement condamnable. Alors après, je ne sais pas si on aura des drones ou si on a des caméras qui filment.
Il y avait des drones aujourd'hui.
Je plaisante, mais quand même quoi.
Les mouettes d'ailleurs nous en voulaient.
Les
mouettes.
Elles apprécient pas.
Il y a des attaques de drones par les mouettes.
Ouais.
Comment ? Il y a des attaques de drones par les mouettes. Ah, drôle d'info.
Il y a eu des drones qui ont été utilisés, je crois que c'était au-dessus de Lyon.
Des black mouettes, quoi. Finalement.
C'est sûrement ça. C'est rare, mais effectivement, le drone est attaqué par les mouettes, ce qui a un peu déstabilisé l'utilisateur.
Si on peut sourire un peu, parce que franchement, c'est vrai que, encore une fois, on n'est pas du tout à des niveaux de violence comme ceux qu'on a vus le 1er mai. Mais c'est vrai que de voir que les casseurs profitent à chaque fois de l'occasion pour casser. Ce symbole de la rotonde, Jean-Sébastien, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, mais voilà, bah, je trouve que ça dit beaucoup de choses de voir un cordon de sécurité pareil devant une brasserie parce que, je le répète, il y a 6 ans, avant son premier mandat, Emmanuel Macron est allé passer une soirée dans ce restaurant.
C'est un des lieux qu'il fréquente parce que justement, le président de la République.
Oui, mais le grand public, ne pense à la rotonde que pour le jour du premier tour, le soir du premier tour.
Oui, mais malheureusement, le président de la République et son épouse ont choisi de ne plus fréquenter que certains établissements pour éviter d'en exposer d'autres. C'est là où on en est arrivé. C'est la raison pour laquelle je vous disais ça, parce que ça n'a pas que pendant les manifestations, mais qu'on a vu effectivement, et c'est exactement ce qui s'est passé à Amiens, s'en prenant cette chocolaterie qui appartient
à la même famille. Vous avez raison de faire un parallèle.
De Madame Macron, on est dans l'absurdité absolue. Dans l'absurdité absolue, mais parce que ce sont des symboles à la fois... C'est la personne d'Emmanuel Macron qu'on attaque et probablement un certain mode de vie, comme s'il y avait d'un côté des privilégiés, des bourgeois, parce que ça s'inscrit dans un discours de radicalité, de contestation sociale, qu'on a le droit de tenir par ailleurs, pas en s'en prenant à des biens, à des personnes qui n'ont strictement rien demandé. Maintenant, la manifestation d'aujourd'hui, parce que c'était quand même le 10e anniversaire de la mort tragique
de Clément Méric.
Potentiellement, il y aurait pu avoir peut-être.
Donc, c'était un militant de gauche qui a été, tué par des militants d'ultra-droite.
Et qui.
Par des militants. Clément Méric.
Oui. Et qui, pour le coup, on aurait pu croire qu'il y avait des black blocs qui venaient justement pour cette raison-là. Et on sait ce qu'on sait. Alors, je ne sais pas s'ils ont été interceptés sur la route, mais en tout cas.
Des black blocs étrangers qui ont été interceptés.
Le résultat était. Moins finalement terrible que ce qu'on a pu connaître, notamment lors du 1er mai. Et moi, je trouve que le verre est à moitié vide, à moitié plein, selon ce qu'on a envie de voir. Parce que ça n'est pas une réussite massive en termes de poursuite du mouvement, mais pris dans l'autre sens.
On va l'évoquer très largement avec la pub.
Ça montre aussi que la pilule, le gouvernement a beau vouloir tourner la page ne tourne. Je pense que les gens ont acté le fait que si la réforme des retraites, elle, entre en vigueur, du reste, les décrets, un certain nombre de décrets d'application ont été publiés. En revanche, la facture, elle restera, et elle restera, je pense, enfin, dans le climat politique pendant encore longtemps.
Il n'y a plus que jamais de France aussi, c'est l'impression que ça nous donne, entre cette France qui reste en colère, qui, bien que la loi a été promulguée, bien qu'elle sera en vigueur dès le 1er septembre, mais qu'a priori il n'y a plus rien à faire, eh bien, il y a toujours une partie des Français qui n'acceptent pas et qui ne souhaitent pas passer à autre chose. Et parmi eux, certains des plus violents qui profitent de ces mobilisations organisées et encadrées pour venir jeter le trouble.
Oui, mais on voit aussi, on compare les violences, notamment bon par rapport au 1er mai, on dit on est quand même chanceux, cette fois-ci, ça a été moins pire. Mais c'est là qu'on voit aussi que les ultra-radicaux ont besoin de la foule, ont besoin qu'il y ait beaucoup de gens dans les rues pour être capables de faire...
Pour se fondre.
Oui, pour se fondre et pour faire donc leurs actions. Mais c'est là qu'on voit aussi à quel point, on parle à peu près de quoi, 1000 ultra-radicaux qui sont là pour en découdre. Eh bien, 1000, ils ont un pouvoir de nuisance immense, finalement. Alors, on se pose encore la question, mais comment se fait-il qu'on peut laisser à peu près 1000 personnes faire autant de grabuges, s'attaquer, faire autant de violences aussi, et confisquer aussi le sens des manifestations, parce que au final, ben, c'est quoi? C'est des gens qui décident de ne plus venir manifester aussi. Donc ça, c'est une chose. Cela dit, pour le mouvement en tant que tel, moi, je pense que oui, les Français, une grande partie des Français n'ont toujours pas digéré le fait de s'être fait imposer cette réforme. Cela dit, quand même, ben, on voit qu'on est en train quand même de tourner la page. Je pense sur la séquence des manifestations, la séquence de cette colère, disons, qui est exposée comme ça dans les rues. Moi, je pense qu'on est en train véritablement de tourner la page.
Un dernier mot avant notre dernière pub de la soirée. On s'intéressera beaucoup plus particulièrement aux syndicats et à la suite de ce mouvement juste après la pause.
On est probablement en train de tourner la page, mais malgré tout, il en restera quelque chose. Et aujourd'hui, vous avez en effet une acrimonie dans la population. Et ça ne veut pas dire que d'ici 2027, ça ne sera pas encore un enjeu structurant. Deux mots quand même pour revenir sur ce que vous disiez. Vous disiez tout à l'heure, voilà, il y a des gens qui ne veulent pas tourner la page et qui font de la violence. La réalité, c'est qu'eux, ils s'en fichent de la réforme des retraites.
C'est vrai.
On a affaire à des groupes qui sont
c'est
des, groupes
c'est des profiteurs de...
Ce qu'ils veulent, c'est l'effondrement de l'État.
Vous avez,
donc, vous avez une manifestation sur les retraites ou sur autre chose. L'important, c'est que ce soit un bon véhicule pour en effet...
Non, c'est plutôt les actions comme celles qu'on a vues au siège des JO aujourd'hui qui tendent plus à servir le propos que je tenais un peu plus tôt. Et on verra ces images d'ailleurs juste après la pause. Vous restez avec nous. C'est donc, je le disais, notre dernière pause de la soirée. On s'intéressera beaucoup plus particulièrement au fond du sujet, aux syndicats. C'était la dernière, Monsieur Privat, journée de mobilisation.
Je n'en sais rien. De l'intersyndicale.
Il va falloir vous mettre d'accord. Parce que pour Laurent Berger, a priori, c'était la dernière.
Parlez, on verra bien.
Passons de parler. On en discute dans un instant. A tout de suite. Il est 22h30. Soir Info revient juste après le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri.
Le préfet, responsable de la gestion du fonds Marianne, démissionne. Cette décision fait suite à la publication d'un rapport de l'inspection générale de l'administration. Elle dénonce un traitement privilégié de Christian Gravel réservé à une association. Le fonds Marianne a été lancé en 2021 après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre la radicalisation. Un jeune Français sur 10 est en difficulté de lecture, la moitié d'entre eux en situation d'illettrisme. Résultat d'une étude du ministère de l'Éducation publiée aujourd'hui. Elle s'appuie sur des tests conduits durant la journée à Défense et Citoyenneté en 2022. Dans le détail, 12,9% des garçons sont en difficulté contre 9,1% des filles. Et puis Volodymyr Zelensky appelle le monde à réagir. Le président ukrainien s'est exprimé après la destruction partielle du barrage de Kakhovka. Cette destruction a entraîné l'inondation de nombreuses localités. Au moins 17 000 civils ont été évacués. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement.
Parce qu'ils étaient pressurés. Ah non. On est de retour donc avec Karim Abrik, Jean-Sébastien Ferjou, Benjamin Morel, Patrick Privat, Mathieu Vallet. On a... évoquer l'aspect sécurité, les interpellations et la façon dont cette journée s'était déroulée sur le terrain. Venons-en au fond qui nous intéresse. Patrick Privat, principalement, trésorier confédéral Force ouvrière. C'était la 14e et dernière journée de mobilisation. Je vous ai posé la question juste avant la pause, mais je voudrais peut-être qu'on développe un petit peu plus la réponse. Est-ce qu'il faut savoir, parfois, arrêter une mobilisation pour ne pas la gâcher? Finalement.
C'était peut-être la 14e journée. Moi, j'ai toujours quand même le badge. Alors, j'ai pas eu le temps de faire les badges abrogation.
Badge retrait. Je précise pour nos téléspectateurs ce qu'il est écrit. Vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez.
Mais je ne sais pas si c'est la dernière journée de mobilisation.
Mais est-ce qu'il ne serait pas sage que ce soit la dernière journée?
D'abord, c'est plus
pour garder ce rapport de force et rester sur des mobilisations importantes.
Il est toujours difficile d'organiser des manifestations pendant l'été, mois de juin ou autre. C'est une journée très chaude aujourd'hui, même si c'est L'anniversaire du jour le plus long, ça n'a pas été les cortèges les plus longs, je vous l'accorde.
Il aurait plu toute la journée, vous m'auriez dit...
Non, j'aurais dit différemment, mais ce n'est pas le souci, c'est pas le problème ça. Ceci dit, il y avait toujours du monde dans les rues. 250 manifestations, je crois. Très peu d'incidents, ce qui prouve que, y compris avec un cortège parisien, ou des cortèges parisiens, parce qu'il y avait deux cortèges à Paris, imposés par la préfecture, qui veut toujours un cortège de délestage, un petit peu compliqué, hein, passer devant certains édifices, l'Assemblée nationale. Bon, il y a eu beaucoup de bruit devant l'Assemblée nationale quand on allait passer devant, mais c'est le côté marrant de l'histoire de la manifestation. Parce que nous, on n'est pas les cassés de l'Assemblée nationale, il ne faut pas se tromper. Hein. On est des républicains avant tout, hein, je le rappelle quand même. Hein.
La mobilisation, elle est au plus bas. Je vois que vous détournez un petit peu.
Non, je ne détourne pas.
Ma question, ce que je vous demande, c'est est-ce qu'il faut savoir s'arrêter ? La mobilisation est au plus bas. Vous imaginez bien, pardon d'être un petit peu direct, et vous n'avez pas fait trembler Emmanuel Macron, vous n'avez pas fait trembler l'exécutif aujourd'hui. Si vous aviez arrêté un peu plus tôt, et auriez-vous, je pose la question, hein, je n'affirme rien, auriez-vous conservé une position de force qui était peut-être un petit peu moins prégnante aujourd'hui avec des cortèges éparses ?
Je ne crois pas que nous avons perdu ce combat, pour plusieurs raisons.
La loi entrera en vigueur le 1er septembre,
je vous
rappelle.
La loi entrera en vigueur. On verra bien comment elle rentrera en vigueur. Ça va être très compliqué.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il reste 29 textes, décrets ou autres d'application à prendre. Il y en a deux qui ont été publiés, comme par hasard, le dimanche, deux jours avant une mobilisation.
Légalement ?
Oui, pas de souci. Le journal officiel travaille le dimanche, donc ce n'est pas de souci là-dessus. On avait été consulté sur ces décrets, on avait déjà dit... notre position, bien entendu, sur ces décrets. Mais le 1er septembre, quand on touche au système de retraite, on touche au système d'information des caisses. Moi, je vous dis que le 1er septembre, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Que va-t-il se passer pour les salariés qui voudront faire valoir leur droit à pension ? Eh bien, on va liquider des pensions de façon provisoire, avec un premier calcul et une diminution de 10%. À peu près, c'est toujours le système. Et on finira les liquidations de retraite, parce que c'est le terme qu'on utilise, avec un décalage. Ça, c'est ça qui va se passer. Donc les salariés...
Pardon, je suis désolé, monsieur Privat, peut-être qu'il me manque des éléments, mais...
les systèmes ne seront pas prêts.
Franchement, je vais vous dire, monsieur Privat, je suis désolé, je n'ai pas compris. Je ne comprends pas, en fait, en quoi vous justifiez que le 1er septembre, la loi ne sera pas promulguée et qu'il y aura d'autres étapes avant que ce soit le cas.
Sur le calcul des carrières... tous les systèmes, tous les paramétrages. Parce que c'est ça, en fait, quand on prend un décret...
Mais on sait que ça se fait par année de naissance et que ça se fera dans le temps, sur plusieurs années. On le sait, ça.
Beaucoup de monde pense, y compris dans les ministères, que c'est en appuyant sur un bouton qu'on modifie les systèmes d'information informatique. Or, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on fait des modifications, de quelque ordre que ce soit, sur les systèmes de la sécurité sociale, ça demande des périodes de test et de validation des modifications, quelles qu'elles soient. Là, en l'occurrence, il y aura zéro test, zéro temps de validation, ce qui veut dire qu'il y aura un maximum d'erreurs. D'où je vous dis ce qui va se passer. Pour ceux qui vont faire valoir leurs droits maintenant, et qui vont se dépêcher à le faire d'ailleurs, il y aura une liquidation moindre, avec une diminution de la pension, et avec un rattrapage plusieurs mois plus tard. Bien sûr, les choses seront toujours dues, mais c'est ça qui va se passer. Et je rappelle autre chose sur ce projet, sur ce texte.
Moi, j'entends, 1200... il y aura peut-être une mise à l'allumage, en effet, comme vous le décrivez, terrible. Qui va être compliquée. Mais, 1200... mais bon, ça change rien au propos.
L'histoire de la pension minimum à 1200 euros.
Ouais.
Ça, il faut reprendre toutes les carrières pour les personnes concernées. Et ça, les systèmes d'information à l'époque, ça n'existait pas. Ça sera donc à la mimine que ça fera, à la main. Alors là, ça va prendre du temps. Ceux qui ont cru pouvoir avoir les 1200 euros cru en ce dispositif, ce sont déjà des personnes à la retraite, hein, au passage, et qui font partie des électeurs, je ne fais pas de politique politicienne, mais quand même, de soutien au gouvernement, si je regarde les dernières élections. Ceux-là, ils vont attendre très longtemps. Il ne faut pas se tromper.
Et donc en fait, vous voulez dire qu'il va y avoir, je dirais, du retard dans les paiements et du retard dans la mise en application ? Mais ça, entre guillemets, ce n'est pas une première. Et vous pouvez avoir un gouvernement et une administration qui gèrent ensuite derrière le retard. Donc j'entends tout à fait, il risque d'avoir un grand ramdam et ça risque d'être problématique du point de vue de l'image. Mais ça ne remet pas en cause la mise en application.
Pourquoi
ça donnera du grain à moudre en effet à ceux qui ont contesté depuis le début cette réforme.
Mais
à l'arrivée, ce sera des couacs.
Pourquoi croyez-vous qu'on soit passé par un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale?
Parce qu'il fallait...
Uniquement parce qu'il fallait... Non. Uniquement parce qu'il fallait avoir un impact financier dès 2023. C'est pas autre chose.
Ah, ça, c'est ce qui permettait de le rendre constitutionnel.
Oui, c'était uniquement pour ça. S'il avait passé son dossier sur la loi de finances de sécurité sociale 2024, on avait quelques mois supplémentaires s'il fallait. Et je ne défends pas le système. Hein. Vous savez ce que j'en pense.
C'est au courant, oui.
Voilà, depuis un moment. On avait quelques mois de plus pour faire. Moi, je n'oublie pas que derrière un allocataire, un bénéficiaire de retraite, il y a des personnes. Et qui vivent avec ces pensions-là.
C'est logique, ceux qui vont liquider.
Jean-Sébastien Ferrer.
À côté du 1er septembre, ils ne sont pas impactés par la réforme. C'est ceux qui, de toute façon, auraient liquidé leur retraite à ce moment-là. C'est décalé dans le temps que ça va se faire.
Ah ben oui, c'est décalé.
Bon, oui, mais donc ce temps de test pour cette nouvelle réforme.
Ouais, mais
bon. Je voudrais qu'on revienne sur le sujet. Jean-Sébastien, tiens, tant que vous avez la parole, est-ce qu'on peut dire ce soir, après cette mobilisation, donc en deçà des attentes, tout de même, il faut le dire, Emmanuel Macron a gagné?
Mais gagner quoi? C'est la question. Raisonne strictement sur l'application de la réforme des retraites, oui, de toute façon, c'est gagné depuis que la loi a été adoptée par le Parlement et qu'elle a été validée par le Conseil constitutionnel pour l'essentiel et promulguée ensuite. Après, est-ce que politiquement, ce qu'il investissait dans cette réforme-là, à savoir dire « regardez, je suis un réformateur parce que j'ai réussi à faire ce qui serait censé être l'alpha et l'oméga de la réforme en France », non, d'une part parce que c'est une réforme, et c'est là où ça a été difficile pour lui, je pense. D'habitude, les réformes des retraites, elles étaient attaquées plutôt sur l'angle « c'est injuste ». Là, ça a été attaqué sur le double angle « c'est injuste » et « c'est inefficace d'un point de vue budgétaire », ça ne suffira pas à sauver
le système. C'est antidémocratique parce que le Parlement n'a jamais voté cette loi.
De ce point de vue-là, de toute façon, ça n'est pas réglé. Si on regarde la trajectoire des finances publiques françaises, le sujet du vieillissement n'est absolument pas réglé parce que de toute façon, on voit bien que les retraites, des fonctionnaires notamment, il y a toujours à minima 30 milliards de déficit par an qui doivent donc être pris sur le budget de l'État pour... Alors, c'est pas le système de retraite, mais bref...
Oui, mais il a gagné une ligne à son bilan, en fait, aujourd'hui. Il a gagné une ligne à son bilan. Ce qu'il avait prédit, il l'a fait, et c'est comme ça qu'il nous le vendra.
Par ailleurs, non, parce que je pense que ça a ouvert une crise, on l'a suffisamment répété, démocratique, et qu'il y aura, comme je le disais tout à l'heure, comme Benjamin l'a relevé aussi, de toute façon, ça laisse dans le pays un climat d'amertume, et je pense que ça va lourdement peser sur la capacité d'Emmanuel Macron et de son gouvernement à faire quoi que ce soit d'autre, à court terme, en tout cas sans être passé par la case élection.
Benjamin Moal, vous réagissez dans un instant. Je voudrais juste qu'on entende Laurent Berger, donc patron encore pour quelques jours. Quelques semaines. C'est bientôt le... Bon, ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas votre syndicat. Mais vous êtes amis. Vous vous intéressez les uns aux autres quand même.
Bien sûr. Et on se voit souvent.
Et vous voyez souvent. Laurent Berger, sur cette journée de manifestation, il faut savoir accepter que le match est peut-être perdu pour s'intéresser à d'autres batailles. Écoutez-le.
Sur la question des retraites, on va voir ce qui se passe après-demain à l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ça, on ne va pas se raconter d'histoire. Moi, j'adorerais vous dire qu'on est capable de refaire une mobilisation à 2 millions de personnes la semaine prochaine. C'est pas vrai, parce que les travailleurs et les travailleuses, on ne peut pas leur mentir. Ils sont lucides. Cette réforme, elle est malheureusement promulguée et les décrets de 64 ans sont publiés. C'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'on l'accepte. Mais la façon de ne pas l'accepter, elle va bouger. Ça ne fera pas les mêmes formes de mobilisation qu'on a eues jusqu'alors.
La démocratie, c'est aussi accepter les résultats à la fin. Il n'y a pas d'illégalité dans cette réforme. Moi, je trouve que c'est quand même une victoire à la Pyrrhus, si jamais c'est comme ça que c'était vécu par le président de la République et la Première ministre. Je leur dis attention sur les questions de pouvoir d'achat, d'organisation du travail, de dialogue social. Si vous voulez nous présenter des mesurettes, ça ne va pas passer. Et donc, c'est pas la fin de l'histoire. Il y aura un mois de septembre, il y aura un mois d'octobre. On verra bien ce qui se passera.
Benjamin Moal.
Le mot a été prononcé, c'est une victoire.
On va passer à autre chose.
Si vous voulez, difficile de passer à autre chose parce que Laurent Berger a raison, c'est une victoire à la Pyrrhus. Et je rejoins ce que disait Jean-Sébastien, c'est une victoire à la Pyrrhus, pourquoi? D'abord parce que vous aviez un Emmanuel Macron qui voulait se présenter comme étant un grand réformateur. Il a brisé le lien qu'il pouvait avoir avec l'opinion, y compris avec une partie de son propre électorat. Deuxième élément extrêmement important.
Après, c'est toujours pareil, hein, cette loupe grossissante parfois.
Ouais,
on n'a pas montré l'image, mais aujourd'hui Emmanuel Macron, donc, qui était dans la Manche, en Normandie, pour les commémorations bien sûr du débarquement, Il n'y a pas eu un incident.
Oui, c'est bien merveilleux, mais
le fait
que.
Monsieur le Président, le cirage de main.
Regardez les enquêtes d'opinion ensuite.
Il était beaucoup plus serein. Et les enquêtes d'opinion sont favorables ces derniers jours.
Désolé.
Il est remonté dans les sondages, Emmanuel Macron.
Mais vous avez aujourd'hui une remontée qui est quand même très très basse par rapport aux jauges qui sont celles de siennes durant le premier
tour. Il n'est pas au fond du trou.
Et deuxième élément, il est quand même très très bas par rapport à ses prédécesseurs. Deuxième élément extrêmement important, il n'y a plus de majorité. Elle était déjà relative et là, elle est fondamentalement explosée. Et ça, c'est le point majeur du quinquennat. Parce que comment voulez-vous réformer quand vous n'avez pas de majorité? LR n'est pas un partenaire fiable, c'est ce qu'a prouvé cette réforme. Et de l'autre côté, vous avez au sein même de la majorité relative de vraies tensions qui ont été exacerbées. Troisième élément, même si Standard & Poor's a été plus gentil que Fitch, l'objectif quand même majeur de cette réforme...
Ils nous ont mis quoi? Ils nous ont laissé le triple A?
Perspective négative. L'objectif majeur de cette réforme...
J'aurais été content à l'école d'avoir un A à moins.
L'objectif off, c'était de convaincre les marchés. Parce que derrière, si vous voulez investir dans les finances publiques, il faut emprunter. Et pour arriver à emprunter, il vous faut des taux bas. Et donc, ce faisant, on voit que cette réforme n'a pas convaincu les marchés. Donc, entre guillemets, victoire face aux syndicats peut-être, mais victoire à la Pyrrhus.
Patrick Privat. On en a parlé tout à l'heure. Non, mais vraiment, je voudrais que vous entendiez ma question.
Mais je l'entends.
Pour avoir une réponse vraiment qui va dans le sens de celle-ci. Cette réforme, je l'ai dit tout à l'heure, elle va entrer en vigueur le 1er septembre. On a compris que vous imaginez des couacs, des retards à l'allumage, et on a bien entendu votre démonstration. Moi, je vous pose une question très simple. Cette réforme entre en vigueur le 1er septembre. Elle est passée légalement, quoique certains remettent en question et beaucoup remettent en question sa légitimité. Moi, j'ai une question très simple. Est-ce que vous allez l'accepter, tout simplement?
Non.
Le 1er septembre, cette loi est promulguée. Non. L'accepterez-vous?
Non.
Pourquoi et comment ne l'accepterez-vous
pas? Ce n'est pas la première loi que nous contesterons, quand bien même elle était promulguée avec tous les décrets d'application ou autre. Nous n'accepterons jamais. Et aucune organisation
syndicale. Mais vous n'aurez pas d'autre choix.
Nous n'accepterons jamais. Nous ne validerons pas en tant que telle cette loi. Autant on peut dire quand une loi est prise que les choses avancent, qu'il y a du plus pour les salariés ou pour les citoyens de ce pays, on peut dire on approuve les choses. Là, on a pris deux ans ferme, tous, vous y compris, et surtout les plus jeunes.
Enfin, moi,
entre vous, moi j'en ai pris un peu moins parce que j'ai mes cheveux blancs font que.
Je veux dire, j'ai calculé, moi c'est 67 ans.
Ah oui. Mais rien. Ne vous... Mais je rappelle aussi
je
que
veux pas me prendre,
rien
par rapport
rien.
À des gens qui
ont absolument.
Des carrières rappelle... beaucoup...
c'est...
comment
c'est pour bientôt.
Ouais, c'est... en plus ça va arriver vite.
Je rappelle quand même dans ce pays, avant cette réforme, déjà si vous vouliez travailler bien au-delà de l'âge légal, c'était largement possible. Mmh. Et l'employeur ne pouvait pas vous licencier pour dire vous ne restez plus. Vous le rappelez quand même. Mmh. L'âge moyen de départ aujourd'hui, il est à plus de 63 ans. Donc le curseur, le marqueur 62-64, ça ne servait à rien. Ça va servir à des choses importantes.
Ça sert à la contester.
Si oui, ça sert à la contestation. Mais ça va servir à des choses fondamentales. Et je vous dis que cette réforme va coûter beaucoup plus cher que soi-disant le rapporteur. Aujourd'hui, 50% des gens qui font valoir le droit à la retraite ne sont déjà plus en activité avec l'ancien système. Vous pensez qu'en mettant deux ans de plus, on va améliorer ce ratio? Certainement pas. Ce sont les prévoyances dans le secteur privé qui vont payer. Ça a été évalué à 10 milliards d'euros de plus, le décalage de deux ans. Donc le ministre de l'économie qui dit « Moi, je ne serai pas le ministre de l'économie qui va augmenter les charges », parce qu'il parle toujours comme ça, moi je parle des cotisations des entreprises, c'est faux, il ment. Parce que ces régimes-là doivent être équilibrés. Donc il y aura une part patronale en plus et une part salariale en plus pour équilibrer ces régimes. Complémentaire santé, même chose. Je rajoute quand même une chose. Cette loi n'a jamais fait l'objet d'un vote formel. Il faut quand même rappeler les choses. Vous parlez d'approbation.
C'est ça qui restera.
Dernier point, il n'y a pas de caisse de retraite pour les fonctionnaires de l'État. C'est le budget de l'État. Mm-hmm. Rappelons bien les choses quand même. Donc, on ne se trompe pas pour les fonctionnaires. Il n'y a pas de caisse de retraite ad hoc. Il y en a pour ceux des collectivités locales, territoriales ou à fonction publique.
On se demande si ce n'est pas quand même un peu le champ du cygne pour les syndicats. Vous répondrez dans un instant. Je voudrais juste qu'on voit ce sujet, si vous le voulez bien. Je sais qu'Arima Bric et Jean-Sébastien Ferjou voudraient dire un mot aussi. Des manifestants qui, pour certains, donc désormais, tentent un peu le tout pour le tout en menant de nouvelles actions en dehors de ces cortèges organisés. C'est ce qui s'est passé. Vous voyez le thème qui vous fait soupirer. Je vois Patrick Privat, vous m'en direz des nouvelles dans un instant. La CGT qui envahit aujourd'hui le siège des JO de 2024 à Aubervilliers. Regardez ce sujet, on en discute un instant.
pas de retrait, pas de JO, ont scandé les manifestants à l'intérieur du siège des Jeux Olympiques de Paris à Aubervilliers. Fumigène et banderoles dans les mains, c'est l'une des actions coup de poing de cette journée et le seul moyen de se faire entendre selon ce manifestant.
On a une Assemblée nationale et un gouvernement qui fait un bras d'honneur à tout ça. Et ben nous, on est venu leur dire qu'on n'ira pas au travail. On ne fera pas en sorte que les JO se passent bien, ça c'est clair.
Du côté d'ici les Moulineaux, des électriciens ont procédé à une coupure de courant qui a touché pendant 2 heures une large zone qui abrite des sièges de médias et entreprises du numérique, afin de contester une nouvelle fois la loi de réforme des retraites, comme l'appuie Frédéric Probel, secrétaire général du syndicat Énergie Bagneux.
On a ciblé une grosse zone capitaliste d'ici les Moulineaux, où il y a Canal+, Microsoft, le siège d'Orange. Voilà ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est encore qu'un avant-goût. On vous avait promis Roland-Garros, on vous avait promis Cannes, et bien on vous a fait ici les Moulineaux.
Certains campus sont toujours touchés et sont actuellement alimentés par des groupes électrogènes dans l'attente d'un retour à la normale.
Pourquoi vous avez eu ce petit...
Pour une raison très simple.
Petite grimace lorsque j'ai lancé le sujet.
Pour une raison très simple. C'est que nous participons toutes les organisations syndicales confédérés, les 5...
Vous cautionnez cet envahissement?
Non, je ne cautionne pas, parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas là que se décident des dossiers comme le dossier des retraites. Et nous avons tous signé une charte.
L'intersyndicale, vous voulez dire?
Absolument. Mm-hmm. Je parle des 5 confédérations principales. Une charte sur les JO 2024. En termes d'organisation, de contrôle du temps de travail, de contrôle sur les chantiers, ce qui nous donne accès à tous les chantiers, notamment.
Les Jeux Olympiques 2024 sont menacés selon vous ou pas?
Non.
Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils nous font là? Ils jouent à nous faire peur la CGT?
Oui. Moi je cautionne pas ce genre de choses, ça ne rapportera rien.
Ce qu'on voit,
ce débat-là.
Jean-Sébastien et Karima, donc qui voulaient prendre la parole. Ces menaces sur les JO, qu'elles soient vérifiées, vérifiables ou pas, Patrick Privat tend à nous rassurer, pourquoi pas. En fait, ce qui nous inquiète à travers ces actions qui pourraient continuer, pourquoi pas, prochainement, régulièrement, ce qui nous inquiète, ce sont les traces, et ce que vous commenciez à dire tout à l'heure, en fait c'est ça, c'est les traces que vont laisser ces mois de contestation et de non-débat ou de non-vote à l'Assemblée, de bras de fer avec le gouvernement. C'est cette trace, combien de temps elle va poursuivre l'exécutif, le président de la République et le climat social dans notre pays? C'est maintenant c'est la question la plus importante maintenant, en fait.
Oui, parce que je crois que ça fait déjà pas mal de temps que pour beaucoup de Français, c'est autre chose que simplement cette réforme des retraites.
Bien sûr, la tâche du...
Il y a la dimension où chacun peut le calculer à hauteur de sa vie. Mais c'est autre chose, c'est un rapport à la politique. On est déjà dans une période où la confiance dans la parole publique, où la confiance dans les élus est très très faible. Et là, on a vu effectivement un gouvernement qui n'a pas réussi à soit convaincre l'opinion, alors qu'il avait quelques arguments, hein, parce que vous avez raison de rappeler, de dire il peut y avoir des coûts cachés à cette réforme, mais malgré tout, il y a quand même des économies qui sont faites. Et quand on a fait les réformes précédentes, ce que vous disiez, les gens qui sont au chômage, par exemple, mais ça a décalé l'âge à partir duquel où ils sont restés en emploi plus longtemps, puisque les entreprises avaient quand même tendance à intégrer le décalage de l'âge de la retraite. Donc c'est plus complexe que la manière dont vous le décriviez. Mais au bout du bout, peu importe, parce que ce qu'en ont retenu les Français, c'est que c'est comme un déni démocratique parce que on ne les fait pas participer. Et moi, je trouve, et je vous le disais, je crois déjà, la journée de jeudi, elle va être très importante de ce point de vue-là parce que l'article.
Et on va en dire un mot juste après, d'ailleurs.
Il condense en fait toutes les questions qu'on peut avoir. Est-il cohérent que les parlementaires soient en quelque sorte sous tutelle? Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est de mettre les parlementaires sous tutelle. Donc, de considérer, finalement, les parlementaires sont un peu irresponsables, ils pourraient voter des dépenses dans tous les sens. Mais donc, quelle est la logique de faire semblant de vouloir faire de la démocratie directe, des conventions nationales de la refondation, des conventions citoyennes, etc. De faire semblant de dire, on va donner plus de pouvoir, on va plus écouter les citoyens, quand déjà ceux qui nous représentent, et on est quand même une démocratie représentative, on leur fait même pas confiance. Et toutes ces questions-là, et c'est, tout le monde s'est passionné pour la Constitution, c'est ça. On est dans une demande de démocratie nouvelle, et sur le basique, on ne sait déjà pas y répondre. Et quand je dis le basique, à vrai dire, c'est plutôt l'essentiel. Le Parlement, on ne sait déjà pas y répondre.
Karima, un mot là-dessus?
Oui, puis ça donne une impression. En fait, les syndicats ont mené cette chaude lutte. Je pense qu'il y a eu un grand respect de la part de la population qui a suivi les syndicats. Ils étaient des centaines de milliers de personnes dans les rues. Ça s'est fait de façon pacifique. Ça a été ça a duré dans le temps. Mais en même temps, on se dit... le résultat des courses, c'est quoi? C'est que finalement, la réforme a été adoptée. Alors, il y a ce sentiment, je le disais, une amertume pour certains, une colère. Et dans certains cas, on passe à la radicalisation des actions, des coups d'éclat. On l'a vu, sur la question des JO. Est-ce que certains se diront, de toute façon, manifester de façon pacifique, ça ne fonctionne pas. On va y aller avec des coups d'éclat. On va y aller avec des manifestations radicales. C'est une possibilité. Et sur cette crise, ou enfin cette atteinte un peu au sentiment que la démocratie a été touchée, oui, je pense qu'il y a ce sentiment, en fait, d'un déficit de représentativité. Je pense qu'aussi, on se dit, finalement, on a passé cette loi, il n'y a pas eu de vote, ça a été passé en force. On a l'impression aussi, on regarde ça de l'extérieur, et on se dit, le gouvernement a utilisé toutes sortes de clauses, oui, certes, des articles constitutionnels, mais donc ça nous donne une apparence un peu de côté d'un débat finalement technocratique, littéralement, et pas incarné. Le peuple n'avait pas son mot à dire, et même si la grande majorité des Français ne voulait pas de cette réforme, tant pis, on ne l'écoute pas. Pas de possibilité de faire de référendum, pas de possibilité. On sent qu'on est bouché et finalement, c'est un dialogue de sourds entre le gouvernement, les oppositions, la rue et les syndicats.
Et dans 48 heures, cette fameuse niche parlementaire qui commence déjà à faire débat, votera pas. On va en dire un mot dans un instant. Je voudrais juste que vous entendiez Jean-Luc Mélenchon qui rappelle à tous ceux qui veulent l'entendre que la lutte continuera quoi qu'il arrive.
Il y a encore un débat qui va avoir lieu à l'Assemblée. Nous allons le mener jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Si nous gagnons, nous aurons gagné. Si nous perdons, la lutte continuera. Je ne sais pas vous dire sous quelle forme, puisque ceux-là même qui l'ont organisé jusqu'à présent ne nous ont jamais associés à la prise de décision sur la façon de conduire le combat. Alors, moi, je préférerais que maintenant et pour l'avenir, il y ait une organisation plus ample dans laquelle les syndicats acceptent de collaborer avec des organisations politiques qui défendent les mêmes objectifs et les mêmes mots d'ordre qu'eux.
Vous acceptez de vous faire récupérer par Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Privat ?
Certainement pas. Pas plus lui que d'autres partis politiques.
Pourquoi pas ?
Non, parce que c'est pas le même objet.
Cette colère sociale, vous pensez pas que l'État peut que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou un autre parti, je ne préjuge de rien et c'est vos convictions qui parlent. Mais cette colère sociale, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a un moment où il faut vraiment qu'elle puisse se traduire politiquement, que vous avez besoin de ce relais ?
Elle se traduira un moment ou un autre politiquement. Les gens sont pas idiots et ont peu de mémoire quand même.
Pourquoi vous
De quelle façon elle se traduira politiquement ?
Pourquoi vous refusez à ce point-là l'appel de Jean-Luc Mélenchon ?
Mais parce que je n'ai pas à travailler, on les voit, les organisations politiques, on les rencontre, pas toutes, au demeurant, pas toutes. On les rencontre, par contre, on n'est pas la courroie de transmission d'un parti politique, ça c'est l'indépendance syndicale, nous on y est particulièrement attachés, donc on n'a pas travaillé en commun sur quelque chose avec eux. La manifestation d'aujourd'hui, c'est les organisations syndicales qui sont aux manettes. Si les partis politiques voulaient venir, ils venaient derrière. Ils n'étaient pas à l'organisation. Et depuis le début, ce n'est pas eux qui ont organisé le mouvement. La façon de vouloir récupérer le mouvement pour dire, c'est le grand soir ou autre, non.
Jean Morel, un petit mot sur jeudi, ce qui nous attend. Donc je rappelle que la loi n'a jamais été votée, que les Français, qu'une bonne partie des Français n'ont pas l'intention de l'oublier. Jeudi, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette niche parlementaire ? Débat, pas débat, vote, pas vote. La présidente de l'Assemblée qui pouvait dégainer dès ce soir, d'ailleurs, l'article 40. C'est possible de faire de dire simplement ce qu'on peut attendre ou que c'est tellement. C'est tellement compliqué d'un point de vue constitutionnel avec ces différents articles qui se chevauchent les uns avec les autres et qui permettent aux uns et aux autres de parler d'obstruction parlementaire et d'antidémocratie.
Pour vous faire rappeler un peu l'historique, il faut voir qu'on a une proposition de loi donc qui proposait de revenir à 62 ans pour les retraites. Cette proposition, elle a été amputée en commission des affaires sociales. Donc l'article premier, qui était le seul article intéressant, celui qui permettait de revenir à 62 ans, a été supprimé. Si vous voulez le réintroduire, il faut introduire un amendement. Cet amendement, la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, peut le déclarer recevable au titre de l'article 40, irrecevabilité financière. On a, de la part de la NUP et de l'IOT, des amendements un peu biscornus qui visent à expérimenter, etc., pour que malgré tout, il y ait un vote. Mais c'est Yael Braun-Pivet qui juge. Il n'y a pas le Conseil constitutionnel au-dessus. Elle fait ce qu'elle veut tant que la loi n'est pas votée. Donc, si jamais elle veut, elle peut. Donc, si jamais il y a irrecevabilité, on débat sur du vide. Si jamais il n'y a pas irrecevabilité, Yael Braun-Pivet se dit, on peut quand même débattre. Il y a plusieurs centaines d'amendements qui ont été déposés par la majorité. Ça veut dire quoi ? On est dans le cadre d'une niche parlementaire.
À minuit, c'est terminé.
Exactement, de 9h à minuit. S'il y a trop d'amendements, on ne peut pas voter. Et donc, la majorité a décidé qu'il ne fallait pas voter sur cette proposition de loi. Donc, quand
pourtant,
même,
il y a pas un grand risque à voter, ça passera pas.
Évidemment, mais symboliquement.
Alors que le risque social, il est immense.
Mais symboliquement.
Ce serait fou, je dis, de ne pas aller au vote.
Mais symboliquement, la majorité n'a pas envie de perdre ce vote.
Mais et non, donc, elle ne la perdra pas. Elle ne le perdra pas.
Elle a besoin d'une majorité
elle
absolue,
peut,
contrairement non,
elle
au
peut, elle peut en effet perdre le vote. C'est, elle peut, je suis d'accord
il y a
avec
un
vous.
Vrai risque qu'elle perde le vote.
Il y a deux façons de voir les choses. Elle peut perdre le vote parce que, comme l'a bien dit Jean-Sébastien, ben, c'est un vote à la majorité relative. C'est-à-dire que les députés de la majorité qui auront aquaponné ce jour-là, eh ben, ce faisant, ils compteront pas pour la majorité. Ouais. Et donc, si jamais vous avez plus de députés RN et NUP qui sont mobilisés que de députés de la majorité, il peut y avoir une défaite, c'est même assez probable. En revanche, la proposition de loi ne sera pas adoptée in fine, parce qu'il faudrait qu'elle l'avale du Sénat. Et évidemment, là-dessus, bah, la droite sénatoriale n'a pas envie aujourd'hui de revenir sur la réforme des retraites.
Rendez-vous jeudi.
Exactement.
Vous serez là, je vais avoir besoin de vous. Hein, pour
bah, avec grand plaisir.
Monsieur Privé, un dernier mot.
Bah, écoutez, on aura utilisé tous les artifices. La même présidente
donc,
de l'Assemblée.
C'était la dernière.
La même présidente de l'Assemblée qui a validé un bureau, quand même, de l'Assemblée. Je ne me trompe pas. Le fait de traiter ce dossier.
C'est incohérent.
De regarder, oui, c'est incohérent. Totalement incohérent. Ça veut dire qu'elle a subi toutes les pressions.
C'est pas sûr qu'elle s'est trompée à l'origine.
Bah non, mais on lui a expliqué, tu as rien compris, certainement. Bon, bref, on fera tous des VAE peut-être à la fin de ce dossier inconstitution, peut-être. On aura.
Sinon, vous irez faire un peu d'aquaponie avec Benjamin.
Non, allez, ça non. C'est les députés.
Vous n'avez juste d'un mot quand même.
Vraiment très vite, on va envoyer le JT et on passe à tout autre sujet.
Je comprends que les syndicats puissent décider de continuer une lutte sociale, etc. Autant non, je ne le comprends pas de la part de Jean-Luc Mélenchon ou de n'importe quelle autre force politique d'ailleurs, parce que, en toute logique, quand une loi a été adoptée, bah, ce qu'il convient de faire quand vous êtes un parti politique, c'est d'organiser l'alternance d'après, c'est de vous organiser pour être capable d'être élu. Alors, soit d'être capable de provoquer un rapport de force au Parlement, alors par la niche parlementaire, parce que la symbolique pourrait entraîner une dissolution, ou d'imposer une motion de censure ou je ne sais quoi, mais enfin le rôle d'un parti politique, c'est pas de continuer à s'opposer dans la rue, c'est d'être capable de se faire élire la fois d'après, parce que c'est quand même comme ça que ça marche en théorie dans une démocratie.
Mais
de se faire élire et de revenir sur X ou X lois si vous considérez qu'elles sont mauvaises.
Bon, c'est bon.
Ouais, mais je vais encore continuer. Hein, si vous voulez.
Non, mais c'était. Moi, je trouve que Jean-Luc Mélenchon, il adapte son discours à la violence ambiante, en fait. Et, il a pas une. Parce que le Jean-Luc Mélenchon d'il y a 10 ans n'a rien à voir avec le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui, et j'ai l'impression que oui, il est extrêmement influencé par la colère ambiante, et il l'a traduit à travers
son... Il essaye de sortir sur la colère ambiante pour rejoindre ce que disait Benjamin Morel tout à l'heure.
Merci Monsieur Privat.
Même une envie de chaos.
C'était un plaisir de vous avoir comme souvent, trésorier confédéral FO, vous avez trouvé votre rond de serviette ici chez vous. Vous venez quand vous voulez, pourquoi pas jeudi, après la niche parlementaire. C'est comme Mathieu Vallet, il a son rond de serviette.
Attendez,
avec le petit nom que j'ai gravé. 23h, Adrien Spiteri pour l'essentiel de l'actualité. On évoque Édouard Philippe, qui livre une interview à l'Express, pavé dans la mare, sur l'immigration. Restez assis, monsieur Privat, je vous libère dans 10 secondes exactement. Le journal Adrien Spiteri.
Emmanuel Macron a célébré le 79e anniversaire du débarquement. Il a rendu hommage au commando Kieffer. Le chef de l'État a participé à une cérémonie à Colville-Montgomery en compagnie de la Première ministre Elisabeth Borne. Il a ensuite participé à l'inauguration du nouveau musée du débarquement. Le prince Harry dénonce l'intrusion de la presse dans sa vie et raconte sa souffrance. Le duc de Sussex s'est exprimé au cours d'un procès à Londres aujourd'hui. Procès contre un tabloïd qui l'accuse d'avoir illégalement recueilli des informations. Son audition doit se poursuivre demain matin. Et puis clap de fin pour Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. L'entraîneur a été informé de son départ après une saison compliquée. Plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer. L'ancien coach du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, serait la priorité.
Les phrases choc d'Edouard Philippe dans l'Express sur l'immigration. L'ancien Premier ministre, très offensif, avec une remise en cause de l'accord avec l'Algérie signé en 1968 sur le regroupement familial notamment. Il n'y a rien d'inéluctable, dit-il. Il faut prendre son destin en main et ne pas subir la situation. Décryptage avec notre journaliste politique Florian Tardif et on en parle quelques minutes.
Édouard Philippe, dans les colonnes de l'Express, partage le constat de ses anciens collègues, les Républicains. Il faut reprendre le contrôle de l'immigration en France. Il le dit haut et fort, expliquant notamment qu'en 20 ans, je le cite, la population française a augmenté de 9% et le nombre d'étrangers a augmenté de 53%, se basant sur des chiffres du ministère de l'Intérieur. Et que rien, poursuit-il, dans cette évolution ne correspond à un choix politique ou à une décision que nous aurions prise. C'est pour cela qu'il faut agir, estime le maire du Havre, jugeant les propositions du gouvernement certes nécessaires, mais insuffisante à ses yeux. Il propose ainsi de renégocier, par exemple, les accords conclus avec l'Algérie qui permet aux Algériens de bénéficier depuis 1968 d'un régime d'exception en France. En revanche, il s'oppose à la proposition du camp républicain de rompre avec la primauté du droit européen, estimant que cela serait interprété par les autres pays membres comme une forme de Frexit juridique. Mais au-delà des propositions visant à limiter les flux migratoires, Édouard Philippe identifie entre autres, deux autres problématiques auxquelles nous sommes confrontés sur notre sol et auxquelles il faut répondre aujourd'hui. Premièrement, la problématique de l'intégration, principal problème à ses yeux. Et deuxièmement, celui de l'islam qu'il décrit comme un sujet central, un sujet inquiétant, un sujet obsédant.
Alors je rappelle quand même à nos téléspectateurs, cet accord de 1968 organise l'entrée, le séjour et l'emploi des Algériens en France selon des règles dérogatoires au droit commun. Sur certains points, en fait, les Algériens, et vous le voyez à l'écran, sont favorisés par rapport à d'autres populations étrangères, notamment en matière de regroupement familial. Il faut être très précis également pour dire que sur d'autres également, ils sont perdants, hein, notamment pour les étudiants. Je voudrais que vous voyiez, que vous lisiez avec moi une première citation d'Édouard Philippe pour qu'on comprenne bien ce que nous dit l'ancien Premier ministre. Bien entendu, il y a des relations historiquement extrêmement puissantes entre la France et l'Algérie, mais le maintien aujourd'hui d'un tel dispositif avec un pays avec lequel nous entretenons des relations compliquées me paraît injustifié. Il rappelle que depuis début 2000, la population française a augmenté de 9% et le nombre d'étrangers a augmenté de 53%, et rien dans cette évolution ne correspond à un choix politique ou à une décision que nous aurions prise. Jean-Sébastien Ferjou, pour commencer, l'immigration du fait accompli, c'est ça qu'il dénonce. Édouard Philippe qui lève un grand tabou, et en même temps, oui, on peut tous avoir, j'imagine que les uns et les autres, on s'est tous fait la même réflexion. Il a été aux manettes, monsieur Philippe. Il découvre les problèmes.
Quand la loi Collomb.
Il a été Premier ministre.
Il n'a pas été Premier ministre, il était Premier ministre quand la loi Collomb a été votée en 2010.
En plus, et c'est ça qui fait tiquer, je pense, les gens qui nous regardent ou qui découvrent ces informations. C'est assez insupportable de se dire, mais vous avez été à Matignon, monsieur.
Oui, mais il a toujours le droit de changer d'avis, pourquoi pas, ou de considérer que la situation a évolué, hein. Ça fait partie de la politique. Je pense qu'il a d'ailleurs plutôt raison sur l'accord de 1968 avec l'Algérie, mais il n'est pas le premier.
C'est même pas la première question, là. N'avez-vous fait alors que vous étiez aux commandes ?
Non, mais le problème, c'est que l'immigration est devenue l'espèce de marché sur lequel viennent se servir les gens à droite qui veulent indiquer leur degré de droititude, en quelque sorte. Alors, il y a les Républicains, il y a le RN, et puis chacun prend. En fait, c'est des postures ou des mots dont je ne suis pas certain qu'ils s'appuient sur, en tout cas dans le cas de l'interview d'Edouard Philippe, qui s'appuie sur beaucoup plus d'analyse que ça sur le fond. C'est simplement pour dire, regardez, je ne fais pas partie de la majorité actuelle. Le gouvernement, ou Emmanuel Macron en tout cas, serait bien en peine de faire voter une loi sur l'immigration. Je suis un cran au-dessus de lui. Pour bien marquer qu'il est à droite, parce que beaucoup ont compris que l'enjeu en 2027 serait certainement de récupérer un électorat plutôt ancré au centre-droit, enfin centre-droit et à droite. Mais est-ce que ça a du sens d'aborder la politique par ce biais-là ? Parce que par ailleurs, Édouard Philippe dit surtout pas, regardez, les Républicains, eux, sont de dangereux extrémistes, puisqu'ils voudraient revenir sur la Constitution et ils voudraient changer la hiérarchie.
Vous n'avez pas l'impression, à la lecture de ce papier, qu'il va plus loin que des Darmanin, que des Wauquiez ?
Ah ben non. Non, parce qu'il va moins loin, justement, que les Républicains. Les Républicains, pour le coup, je trouve qu'il y a une forme de cohérence pour l'avoir défendu avant qu'il le dise, donc je vais pas me déjuger moi-même, c'est à minima mon avis. Mais oui, nous avons un problème de toute façon avec la hiérarchie des normes européennes, et il faudra bien passer, à mon sens, par une forme de bras de fer avec l'Europe pour arriver à réguler les flux migratoires. Mais Édouard Philippe, il veut bien qu'on pense qu'il est plus à droite qu'Emmanuel Macron, mais quand même surtout pas qu'il serait dangereusement à droite et qu'il serait prêt à aller jusque-là.
Mais Édouard Philippe, lui, ose parler des traités européens, il ose aller dans le sens de LR. Donc c'est en ça que je dis qu'il
est plus loin. Non, justement, pour dire qu'il ne veut pas revenir dessus.
Oui.
Précisément pour dire que LR va trop loin et que lui ne veut pas revenir dessus. Oui. Mais peu importe, il a le droit de penser ce qu'il veut, défendre ce qu'il veut. Bien évidemment, ce que je veux dire, ce que je trouve gênant, parce que par ailleurs, chez LR, moi j'attends de voir ce qui se passera aux européennes l'année dernière. Parce que LR tient un discours l'année prochaine, oui, effectivement. C'est mieux d'attendre l'année prochaine.
Ouais, écoute.
Parce que si c'est pour aujourd'hui.
Vous revenez quand vous voulez, monsieur.
Si c'est pour aujourd'hui nous dire ça, être sur une posture dure sur l'immigration, et puis que finalement l'année prochaine, on voit, je sais pas, un choix de tête de liste, d'une personnalité beaucoup plus europhile, beaucoup plus eurocompatible, quelle sera là encore la cohérence? Et je vous dis, c'est devenu, l'immigration est devenue le marché, c'est juste regarder à quel point je suis de droite aujourd'hui.
Je voudrais juste, pour qu'on puisse avoir tous les éléments pour conclure cette conversation, vous montrer encore un long extrait. Il évoque trois non-dits. Trois non-dits à propos de l'immigration. Le premier, d'abord, on dit qu'on veut moins d'étrangers en France, mais lorsqu'un certain nombre de nos concitoyens le disent, ils visent en réalité des personnes qui sont françaises, parfois même depuis trois générations. Ce n'est pas le contrôle sur l'entrée des étrangers en France qui réglera ce problème. C'est un sujet d'intégration, d'éducation, de civisme. Le deuxième non-dit, dit-il, concerne l'islam, devenu selon lui un sujet central, un sujet inquiétant, un sujet obsédant pour les Français. Enfin, troisième non-dit, celui du travail. Beaucoup de Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France, mais dans les restaurants parisiens, dans l'industrie touristique, dans le secteur agricole, dans toute une série de secteurs économiques qui ne sont pas en crise et qui sont indispensables à la réussite française, on se repose sur un nombre d'étrangers tout à fait impressionnant.
C'est des non-dits par lui ? Parce que moi j'ai l'impression.
Alors, la question que j'allais poser.
On en parle quand même.
La question que j'allais poser, c'est oui, c'est non-dit de qui ? Parce qu'en fait, tout ce que je viens de lire.
Et c'est même pire, c'est-à-dire que là, en fait.
Il n'y a rien de nouveau, là.
Il traite, je dirais, comme la droite du pays, c'était comme la droite libérale, la question de l'immigration uniquement sur un angle économique. Le problème de l'immigration, c'est qu'en effet, bah, il y a une question d'emploi en tension. Et de l'autre côté, il ne parle pas d'assimilation, il parle d'intégration. Donc là, en fait, on a un vieux logiciel de droite qui vise à considérer que si jamais il y a un problème d'immigration, c'est parce qu'il y a une question de déséquilibre du marché du travail. Mais en effet, le problème aujourd'hui, et pourquoi justement il y a des tensions, bah, c'est un problème qui est un problème d'assimilation culturelle et de conception commune d'une nation.
Et de hausse des flux.
Exactement. Et là, il y a une question que justement il n'aborde pas, qui fait partie de ces tabous. Le deuxième élément, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est que je suis désolé, mais vous pouvez toujours vous rouler en boule, dire l'immigration veut réguler, etc. Tant que vous n'avez pas une approche sur les traités européens, ça ne sert à rien aujourd'hui. Or, en effet, ce tabou-là, il ne le fait pas sauter.
Vous ne sortez pas des traités.
Alors, vous pouvez avoir une politique, ce qu'on appelle d'opt-out, c'est-à-dire que, par exemple, les Danois, qu'est-ce qu'ils ont? Ben, ils ont des exceptions au traité. C'est ça, éventuellement, ce que vous pouvez, voilà. Mais ça implique une renégociation, ça implique un bras de fer. Il ne veut pas aller là-dedans. Il considère que c'est mal, c'est être eurosceptique, etc. Le problème là-dessus, c'est que vous savez, la gauche a le pendant. Ça s'appelle l'Europe sociale. Ça fait 30 ans qu'à chaque élection, on dit, vous savez, on ne peut pas être anti-européen, mais l'Europe va changer. Ça va être l'Europe sociale. C'est la position de Macron et de Philippe. Demain, l'immigration sera régulée au niveau européen parce que, premier, on va changer les traités. On peut encore attendre 30 ans.
Mathieu Valère, un mot là-dessus?
Moi, je suis très circonspect d'un point de vue policier.
Edouard Philippe va réussir à vous convertir à Horizon avec cet entretien dans l'Express?
Moi, je n'ai pas de commentaire à faire sur son parti politique. Moi, je juge l'efficacité des politiques sur les propositions qu'ils font. Et là, il n'y a pas de proposition. Quand vous voyez qu'à la frontière de Calais avec la Grande-Bretagne, à la frontière espagnole avec l'Espagne ou avec l'Italie, à Vintimille, lorsqu'on voit qu'on a des flux migratoires très fort et que la police aux frontières a des grandes difficultés malgré les interpellations, malgré les contrôles, malgré les expulsions, de pouvoir maîtriser les frontières, l'Europe, elle est complètement absente. Quand on avait eu le drame et les difficultés à Lampedusa, on voyait bien que dans le sud de l'Europe, il n'y avait absolument pas une aide décisive et des décisions qui étaient dans le sens intérêt.
C'est quoi la recette pour vous, Mathieu Valère?
Il n'y a pas de recette, c'est que Frontex...
L'immigration n'est pas un fardeau, mais elle peut le devenir quand on fait n'importe quoi.
Frontex, qui est l'agence de frontières extérieures de l'Union européenne, qui agglomère en fait des policiers de tous les pays membres. Si on voudrait vraiment une Europe confédérale, qui à mon sens ne fonctionnerait pas, avec des policiers européens, ça n'existe pas. On n'a que des policiers nationaux. Finalement, les États se retrouvent bien seuls à réguler les frontières entre eux. Vous voyez bien la Grande-Bretagne, elle a fait le choix de partir en laissant à la France le fardeau de gérer l'immigration irrégulière. Quand on voit à Calais, même s'il y a moins de migrants, même s'il n'y a plus le camp de Sangatte depuis Nicolas Sarkozy, et même si on voit que la police aux frontières, les douanes et tous les services sont mobilisés, il y a des compagnies républicaines de sécurité des forces mobiles, ça nous coûte un pognon de dingue. Et ensuite, moi, pour revenir par exemple sur l'Algérie, la Tunisie et le Maroc pour terminer, on a un gros sujet. Moi j'ai des origines espagnoles, quand on arrive dans un pays en tant que visiteur, on n'amène pas ses us et coutumes, son mode de vie, ses exigences, on s'adapte au pays qui nous accueille avec les lois et les règlements en vigueur avec la communauté nationale. Aujourd'hui c'est le communautarisme qui ronge notre société. Et puis ces pays du nord du Maghreb, la grande difficulté qu'on a c'est qu'ils ne veulent pas récupérer leurs délinquants. Enfin, nous, quand on a un ressortissant
c'est
français.
C'est pour ça qu'il veut mettre fin aux accords de 1968 aussi.
Il y a beaucoup de politiques qui veulent mettre fin à beaucoup de choses, mais enfin, aujourd'hui, la réalité, c'est que les laissez-passer consulaires avec l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, pour parler que ces trois pays principaux qui sont censés être des pays amis, eh ben, on devrait avoir plus de facilité pour qu'ils puissent récupérer les délinquants qui sont de nationalité des pays de ses origines pour pouvoir les expulser, mais de la même manière que la France récupère ses ressortissants à l'étranger qui commettent des infractions et qui sont français lorsque les pays veulent bien les extrader.
Karim Abrik, il est en campagne, ça y est. Édouard Philippe.
En fait, la campagne, je vais dire, c'est le sujet de l'immigration. Il y a deux constats à faire. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, je pense, des Français. Il y a une demande aujourd'hui des Français à leur politique de faire quelque chose sur ce sujet. Vous regardez les enquêtes d'opinion, il y a une demande pour dire, écoutez, oui, il faut mieux réguler les flux migratoires. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, il y a la réalité du terrain, ce qu'on constate. Donc oui, des problèmes d'intégration, certains diront d'assimilation, et ça passe par le nombre. Je veux dire, dans n'importe quel pays, où par exemple, je regarde au Canada notamment, vous allez regarder aux États-Unis, mais au Canada, oui, il y a une politique d'accueil, mais il y a un certain nombre. Pourquoi? Parce que si je vous parle du Québec, la francisation comme telle, de s'assurer qu'on va transmettre la langue, qu'on intègre vraiment les gens, c'est une question de nombre. Si c'est complètement des flux incontrôlables, comment vous voulez...
C'est pour finir sous des ponts au Port de la Chapelle. Ça
exactement.
Le Canada est de plus en plus confronté, parce que chaque saison, il était protégé par les États-Unis. Il y a plus en plus de flux qui arrivent jusqu'aux frontières.
C'est ça. Et le non-dit, les tabous...
L'Europe, elle n'a absolument pas aidé les pays nationaux à lutter contre le terrorisme. On voit bien que lors des attentats de 2015, les terroristes ont pu naviguer dans l'Europe centrale, dans l'Europe du Nord avec la Belgique, dans les pays africains, et que finalement, pour les extrémistes comme par exemple les Black Blocs, Julien, les Allemands, les Espagnols, à Sainte-Soline, dans les manifestations aujourd'hui, on voit que les frontières, elles sont un peu passoires parce qu'on n'arrive pas à avoir une coordination sur ce sujet-là efficace contre les extrémistes violents. Et enfin, sur l'immigration irrégulière. Et finalement, l'Europe, au bout de 10, 20, 30 ans, on voit que finalement, elle est plus efficace au profit des pays nationaux qui sont beaucoup plus proactifs. Ça.
Et si on ne s'attaque pas justement à la question du droit européen, je pense qu'on reste dans la posture. Parce que le nerf de la guerre, il est là et il reste dans la posture. Et on veut envoyer le signal qu'on s'en occupe, que finalement, l'immigration, ce n'est pas juste un sujet de très, très à droite, d'extrême droite. Maintenant, je pense que de plus en plus, vous allez avoir...
70% des Français
veulent... Oui, c'est ça. Vous allez avoir à gauche, à droite aussi, qui vont se saisir de ce sujet.
Juste le tweet de la députée RN Laure Lavalette après cette interview de l'ancien Premier ministre. Exceptionnel, dit la députée RN. Après LR, c'est au tour d'Édouard Philippe de copier le programme du RN. Jusqu'en 2027, il promettra ce qu'il n'a pas fait hier et qu'il ne fera pas demain. Les Français ne sont plus dupes. Ouais, sans commentaire en avance.
Ça renvoie à la rhétorique qui, à vrai dire, s'est révélée totalement fausse, hein, mais que le RN répète souvent. Les Français préfèrent l'original à la copie. Ben non, jusqu'à présent, ils ont toujours voté pour la copie.
Tout autre sujet. Des riverains du 12e arrondissement se sont rassemblés hier soir pour la première fois vers 18h30 devant le commissariat du 12e arrondissement à l'appel de plusieurs associations. Ils souhaitent faire entendre leur ras-le-bol parce que le climat sur la place Henri Freinet dans leur quartier, tout proche de la gare de Lyon, se dégrade encore et encore. Bagarres, nuisances sonores, alcool, trafic de drogue, vols, menaces, insultes. Et la liste n'est pas exhaustive. Afin d'attirer l'attention des pouvoirs publics, ils ont décidé d'organiser des actions régulières chaque semaine. Reportage avec Pierre Emco et Sarah Varny. Regardez.
Ils étaient des dizaines rassemblés hier soir. Des riverains de la place Henri Freinet, mais aussi des personnes venues les soutenir.
Ça fait des années qu'ils font rien sur la place. Il y a les distributions alimentaires. Enfin, moi, j'aimerais pas habiter là.
Quand on va au parc, on doit tout le temps être avec un adulte pour être rassuré. On peut même plus, c'est comme on peut dire dans un parc normal.
En cause, des distributions pour les plus démunis organisées sur la place depuis 2 ans, qui génèrent des regroupements, des rixes souvent sous fond d'alcool et des trafics sous les fenêtres des habitants. Cette riveraine habite au premier étage, un quotidien devenu un enfer.
On a une crainte et puis voilà, on vit au-dessus et constamment on entend des cris, de la musique. Il y a des gens qui se promènent à moitié nus, il y a des gens qui urinent, qui défèquent devant nous, qui se masturbent. Donc on a beaucoup de problématiques et on subit la violence.
Les riverains se sentent abandonnés par la mairie et demandent que les distributions soient déplacées dans la rue d'à côté qui n'abrite que des bureaux afin de ne plus subir les nuisances sonores causées par l'effet de résonance. Ils souhaitent également la mise en place d'un point fixe de police au niveau de la place. Le collectif sera reçu le 13 juin prochain au commissariat du 12e arrondissement.
Et puis ce qui est intéressant, c'est toujours de mettre ça en perspective. Regardez ce que communiquait la mairie du 12e en mai 2019 après réhabilitation de la place. Une place plus sûre, une place plus propre et une place plus conviviale. C'est exactement ça, Eric. Merci beaucoup d'être avec nous, Eric. Vous êtes habitant du 12e arrondissement et vous faites partie de ces riverains qui sont en colère. Vous avez bien compris l'ironie et le cynisme que j'ai mis dans le commentaire précédent. 4 ans plus tard, le résultat, il est très très loin de ce qu'annonçait la mairie. On vous a entendu déjà aujourd'hui sur notre antenne. Vous disiez, je n'ai jamais vécu ça. Est-ce que vous pouvez me décrire en quelques mots, en quelques phrases, votre quotidien dans le 12e arrondissement autour de la place Henri Freinet?
Oui, tout à fait. On n'a jamais vécu ça. Moi, ça fait 27 ans que je suis dans ces immeubles. Effectivement, il y a toujours eu, à côté d'une gare, une population interlope. Ça, personne ne peut le contester. Mais c'était une cohabitation qui était plutôt bon enfant, avec des SDF qui n'étaient pas du tout agressifs. Là, les choses ont changé depuis la fin du confinement en 2021, où on a commencé à avoir des bandes de mineurs non accompagnés. C'était en permanence des rixes à l'arme blanche, à la batte de baseball, au caisson de bouteille. Et puis, donc on avait quand même poussé un coup de gueule en 2021. Bon, ça n'avait pas changé grand-chose parce qu'on est face à une mairie verte qui est dirigée par Emmanuel Pierre-Marie et par le premier adjoint aussi, Grégoire. Et nous, on en a ras-le-bol parce que c'est la place des promesses non tenues, outre le fait que ce soit une cour des miracles où on y trouve de la drogue, du trafic de drogue, de crackers, d'alcool, de prostitution. Et je vous en passe des meilleurs. Et comme le disait la riveraine tout à l'heure dans votre reportage, évidemment, on se retrouve avec des scènes de gens en train d'uriner sur la voie publique, de déféquer, de forniquer aussi. Faut bien dire les choses, appeler un chat un chat. Et nous, on se bat aussi contre ça parce qu'on a des enfants. Il y a un groupe scolaire qui est primaire, qui s'appelle le groupe Diderot Bouton, qui a 10 mètres, et ça n'émeut pas la mairie. Ces gosses voient tous les jours ces scènes-là. L'urine macule la place. Les agents de la voirie n'arrivent même plus à nettoyer, tellement l'urine est incrustée dans la pierre. Voilà un peu notre quotidien. Et là, Eric, on a décidé de...
Eric, pardon, quand est-ce qu'elle s'est faite, cette bascule? À quel moment vous êtes passé de ce que vous me décriviez d'une place où, certes, il peut y avoir certains marginaux, peut-être des SDF, mais qui ne gênent personne et qui ne sèment pas le trouble, à ce que vous êtes en train de nous décrire? Ça s'est fait du jour au lendemain? Comment, est-ce qu'il y a un événement particulier qui a fait que cette place devienne invivable aujourd'hui pour vous et les riverains?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Outre le fait qu'on a une mairie verte depuis 2020, suite au petit tripatouillage politique entre les socialistes et les verts à Paris, ça c'est le premier point. Et donc, cette mairie verte idéologique ne veut pas entendre de parler...
Qui est les élus de votre arrondissement? Je veux bien que vous critiquiez les élus de votre arrondissement, mais c'est pas eux qui ont amené la violence sur votre place.
Non, mais ils n'ont rien fait pour la juguler. Par exemple, ils sont tout à fait opposés. Il y a Mathieu Valleux sur votre plateau. Ils sont tout à fait opposés à la vidéosurveillance. Sur la vidéosurveillance, on a demandé des moyens supplémentaires en vidéosurveillance. Ils ne veulent pas en entendre parler parce qu'en fait, une vidéosurveillance, est-ce qu'il paraît que ça ne fait pas peur aux méchants? Ça n'arrête pas les méchants, une vidéosurveillance. Or, c'est tout le contraire. Une vidéosurveillance, ça rassure les riverains en matière de sécurité. Il faut savoir aussi que cette place, elle est anxiogène, notamment par les allumages et les éclairages publics. À cette heure-là, personne ne va traverser la place. On a des éclairages publics qui sont complètement défaillants.
Il y a des agressions de riverains? Je pense aux femmes, aux plus jeunes, aux plus fragiles. Il y a des agressions dans le quartier?
Oui, nous, on a des ados on refuse qu'elles sortent le soir, des jeunes adultes. On refuse qu'elles sortent le soir non accompagnées. Si elles sortent, c'est avec des copains, en bande, etc. À plusieurs. Sinon, c'est impossible. C'est impossible de vivre dans ce quartier.
Qu'est-ce que vous demandez en priorité ce soir?
Alors, merci de me donner, de me tendre la perche sur nos préconisations. En fait, on demande un poste fixe de police sur la place, mais ça fait depuis 3 ans qu'on le demande. Là, il y a des postes de police éphémères, on a vu dans la presse, qui vont être organisés sur le Champ de Mars, je crois, et à Montmartre. On pourrait commencer par là. La gare de Lyon, c'est quand même 550 000 passagers qui passent tous les jours. C'est 27 TGV au départ de la gare de Lyon. Donc ça fait quand même, c'est une porte d'entrée, c'est une porte d'entrée. Voilà, on demande un poste de police.
Et drôle d'image. Enfin, c'est pas ça, c'est moins votre problème, mais c'est aussi une drôle d'image pour les touristes qui empruntent les trains à la gare de Lyon de voir la place dans cet état aussi. Même si c'est pas une nuisance comme celle que vous connaissez 24 heures sur 24.
Et tout à fait, et ça c'est dû aux distributions alimentaires qui sont faites par des associations qui sont prosélytes. Or, il y a une charte qui a été dictée par la mairie de Paris en 2019 à destination des associations, une charte sur les associations qui font de la distribution alimentaire. Alors, il y a trois principes dans cette charte. Il y a le principe de neutralité et de laïcité. Les associations s'engagent à nettoyer après leur passage les déchets qui peuvent être générés. Et puis surtout, c'est la préservation de l'espace public. Aucun de ces trois exemples que je viens de citer et qui figurent dans la charte ne sont appliqués par la ville de Paris. Et Monsieur Grégoire, qui se targue d'être le premier adjoint à voir le maire de en exercice de Paris, a dit qu'il ferait la guérilla juridique à ces associations. On attend encore, mais comme toujours, M. Grégoire avait dit qu'il nous déplacerait les distributions alimentaires. Alors nous, qu'on s'entende bien, on veut pas annuler ces distributions alimentaires.
Oui, oui.
Il y a des nécessités qu'on en a besoin, mais on demande qu'elles soient encadrées et régulées par des médiateurs.
Éric, je me permets de vous couper parce que je voudrais qu'on entende Mathieu Vallet également. Je vous ferai réagir une dernière fois. On a bien compris vraiment et c'est très intelligible et on peut se mettre à votre place même si on n'a pas envie parce que c'est terrible de vivre un quotidien comme ça. Ils demandent beaucoup de choses. Ils savent ce qu'ils veulent, ces riverains. C'est pas compliqué, une présence policière, être entendu par les autorités locales. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Éric ce soir, Mathieu, même si évidemment je vous prends pas à partie en tant que décisionnaire sur ces questions-là, mais en tant qu'expert et connaisseur de telles problématiques.
Expert, je me garde de ce mot-là, mais en tout cas,
si, vous êtes policier.
Policier de terrain. D'abord, il y a un poste de police, il existe. Dans la gare de Lyon, qui est N, à moins de 9 minutes à pied, vous avez des policiers de la police régionale des transports qui ont un poste de police.
Pardon, je vais vous couper après 5 secondes, mais il y a un poste de police, mais regardez l'état de cette place et le quotidien de ces gens.
Je sais que vous êtes impatient, Julien, pour vous connaître, mais je termine ma phrase, comme ça vous aurez la réponse. Pas de souci, moi, c'est de parler vite, vous voyez.
C'est vrai.
Partager des fois. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que donc il y a un poste de police, qu'on mette des effectifs de la DESPAP, c'est-à-dire cette direction qui gère les policiers en tenue et en civil des commissariats parisiens. Effectivement, vous en avez régulièrement. Et quand vous écoutez les habitants, par exemple, de Montpellier, de Roubaix, de Lille, de Lyon, Lyon-la-Guillotière, qui a fait parler d'elle l'été dernier, Montpellier, dont vous avez parlé il y a encore 2 semaines sur CNews pour évoquer ces sujets-là, à chaque fois, les habitants disent la même chose. On voit les policiers font les interpellations, ils prennent attache avec les commerçants, avec les habitants. Vous avez 2 commissaires de police, qui est Monsieur Rémy et Monsieur Roch, sur le 12e arrondissement, qui font des réunions police-population. Mais où est-ce qu'elle est, la justice? Le procureur? Le juge? C'est forcément que ces gens, ils en ont ras-le-bol. À chaque fois, les policiers arrêtent les mêmes délinquants et ces profils de mineurs non accompagnés, dont une partie qui sont pas du tout mineurs, c'est des faux mineurs. En réalité, c'est des majeurs qui se disent mineurs pour bénéficier d'un double avantage. Celui du totem.
Après, il y a peut-être des mineurs aussi. On n'est pas allé faire les fameux tests.
Parce que ça coûte cher en plus.
Mais
ça
qu'ils soient mineurs ou majeurs, ils posent des soucis.
On a un fichier d'ailleurs à Paris. Il y a la Sûreté régionale des transports qui est confrontée à une surreprésentation des délinquants de nationalité étrangère dans la commission d'infraction qui a constitué avec la justice un fichier pour recenser les personnes qu'on côtoie que souvent. D'ailleurs, c'est pas compliqué parce qu'on côtoie souvent les mêmes. Donc, comme ça, on sait qui ils sont et on n'a plus besoin de faire des tests osseux. Et ensuite, je vous le disais, juste pour ça, c'est important qu'ils soient réellement mineurs ou pas, dès qu'ils se déclarent mineurs non accompagnés, tant qu'on ne démontre pas le contraire, c'est double avantage. Celui de ne pas être expulsé et celui de ne pas être condamné. Mais bien sûr, mais le problème, c'est que si on interpelle 20 fois les mêmes individus qui sont 20 fois remis dehors.
Donc, c'est quoi la solution? Et si on pouvait donner un message d'espoir un peu à Eric qui nous écoute
là. Non, mais j'aime bien les Disney, mais je suis pas Merlin l'Enchanteur.
Non, je vous parle pas de Merlin l'Enchanteur. Je vous demande est-ce qu'il y a possibilité de donner de l'espoir à Eric ce soir.
Mais les patrouilles de police, elles y sont. Et la nuit, puisqu'on en a pas parlé et j'ai pas entendu Eric l'évoquer, parce qu'évidemment il doit dormir comme tous les honnêtes citoyens, à part ceux qui travaillent.
Vous avez c'est pas malhonnête de pas dormir la nuit. Faut se calmer quand même. Il peut m'arriver de faire des insomnies. Je me sens pas malhonnête.
J'allais finir. Mais c'est pas fini. Je suis pressé ce soir.
Allez-y.
Attends, j'étais sage pendant un moment.
C'est vrai.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que souvent, moi qui travaille en bac de nuit dans le Val-de-Marne, vous avez mes homologues de la bac de nuit de Paris qui, souvent la nuit, côtoient des délinquants qui sont beaucoup plus violents, beaucoup plus dangereux et commettent beaucoup plus de cambriolages, d'agressions, parce que la nuit, c'est ce milieu qui est si particulier. C'est ça que je veux dire. Évidemment que quand on dort pas la nuit, moi, il m'arrive de sortir le soir et pour autant, je suis pas délinquant. C'est pas ça que je voulais dire. Voilà, non, mais ça, je suis encore un être humain constitué. Mais d'ailleurs, je reprends notre proposition. Je termine sur ça. La mairie de Paris, moi j'ai été chef d'un commissariat comme beaucoup de mes collègues commissaires. Le premier partenaire du commissaire ou du commandant qui dirige un commissariat, c'est le maire. Mais si on a besoin de rien, on va voir Mme Hidalgo, c'est une certitude. Sur le crack à Paris, on devait voir ce qu'on devait voir. On les a jamais vus, la mairie de Paris, sur le nord du crack de Paris. Il y a que les policiers du commissariat du 18e, de la préfecture de police de Paris, de la Sûreté régionale des transports et de la PJ qui agissent.
En gros, Mathieu, c'est-à-dire que... Pardon de vous couper, mais on revient dans un an dans cette place.
Vous coupez beaucoup, mais les caméras... Vous êtes bon.
Merci.
Les caméras, elles nous aident beaucoup. Elles aident à faire des physionomies et à pouvoir mettre plus de surveillance que des policiers le permettraient à H24. Et en plus, elles permettent, lorsqu'il y a des infractions, puisqu'on peut pas mettre un policier, c'est tant mieux derrière chaque citoyen, de pouvoir être utilisé par les enquêteurs des SAIP, c'est-à-dire les services judiciaires de proximité qui gèrent le tout venant en termes de plaintes et d'interpellations. Donc vous voyez, moi je vous fais des propositions concrètes. Déjà, si on a une police municipale armée, on aurait deux fois plus de policiers et de la police municipale qui demande que ça de la ville de Paris et des policiers nationaux.
Ensuite, ça va arriver, ça, on en
si on avait... Bah non, mais c'est dramatique. Vous savez que malheureusement, certaines mairies comme Grenoble, comme Lyon, comme Bordeaux...
Et à Paris, ça n'arrivera pas.
Il y a une tendance politique qui fait que c'est dogmatique. Il faut pas de caméra parce que visiblement ça gêne uniquement les délinquants, mais pas les honnêtes gens qui demandent que ça. Il faut pas de police municipale armée parce que ça sera anxiogène alors qu'aujourd'hui les uniformes c'est une cible. Donc ce que je vous dis, c'est que là je vous fais des propositions concrètes. Les policiers sont présents, on peut toujours mettre plus de bleus sur la voie publique, mais si on met pas plus de délinquants en prison qui agressent les gens, j'entends bien évidemment qu'on va pas mettre tout le monde en prison. Moi je parle de ceux qui agressent pour voler, qui agressent pour sexuellement aussi, puisque ça on en parle pas, mais
qui agressent gratuitement
aussi. Donc on sait qu'aujourd'hui les atteintes physiques, les agressions, qu'elles soient gratuites, pas gratuites, pour violer, pour voler ou pour n'importe quel motif, on sait qu'aujourd'hui, c'est le bas qui blesse dans notre nation. Parce qu'on n'incarcère pas, parce qu'on n'a pas une réponse pénale à la hauteur. Mais je vous dis, tant qu'on a un système généralisé d'impunité sur une partie du public qu'on interpelle, malheureusement, on peut toujours refaire la semoule. Mais derrière, eh ben, vous aurez le même goût parce que ça ne change pas.
Très en forme, Mathieu Vallès.
Ce soir. Toujours
refaire
la semoule.
Vous avoir invité.
J'essaie d'expliquer les choses. Après, je.
Eric.
Juste à Eric que moi, je suis policier à côté de mes fonctions syndicales et que tous les jours, il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes et qu'on essaye de les régler. C'est l'essence même du métier de policier. Maintenant, quand je faisais Merlin l'Enchanteur avec les Disney, j'aimerais avoir une baguette magique pour régler les problèmes. J'ai juste qu'aujourd'hui, la police toute seule, elle peut pas tout régler, s'occuper malheureusement de tout. Et que si la justice n'est pas au rendez-vous, si la mairie donne pas un coup de main et si derrière, on n'a pas une mobilisation collective, eh ben, on est toujours, comme dirait l'expression, les derniers dindons de la farce qui continuent le travail, même si on aime ça, mais malheureusement avec des résultats qu'on aimerait supérieurs si on était aidés.
Conclusion, et Eric, vous avez entendu Mathieu Vallet, j'ai envie de vous dire que vous allez devoir continuer de vous rassembler chaque lundi soir à 18h30 devant le commissariat du 12e pour obtenir gain de cause. Le combat continue ? Est-ce que vous retenez ce que vous venez d'entendre ?
Oui, le combat continue. D'abord, Henri Freinet, c'est un résistant qui a créé le journal Combat. Et donc, nous sommes en résistance contre la mairie du 12e. Et notre prochaine action, ça sera le 19 juin devant la mairie du 12e, où nous allons rendre visite à Madame Emmanuelle Pierre-Marie, qui nous dédaigne et qui nous méprise depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Et ça, on ne l'accepte plus. Et donc, on se battra. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que la place Henri Freinet dans le 12e, par exemple, qui est confrontée à des problèmes d'insécurité. On a aussi la zone Érard-Charenton. Mathieu Vallée doit connaître très bien.
Je vais vous dire, Eric, c'est tout Paris qui est de moins en moins sécurisé.
Et justement, vous faites bien de le souligner que c'est tout Paris, parce qu'hier, on avait l'Union parisienne. Et en fait, on a tous les quartiers de Paris qui s'agrègent et on se solidarise entre nous pour faire des actions. Et c'est-à-dire que quand il y aura une action sur la place Auguste Baron ou au Jardin des Halles ou dans le nord-est parisien, on sera présent avec eux et vice-versa. Et ça fait chaud au cœur parce que les citoyens et les habitants de Paris se mobilisent et prennent leur destin en main, puisque certains pouvoirs publics, et moi j'en veux pas du tout à la préfecture de police, parce qu'ils font avec les moyens qu'ils ont, et Mathieu Vallée le sait très bien, et on n'en veut pas du tout à la police. Et eux, ils déplorent aussi tous les jours. On a discuté avec les policiers hier du 12e arrondissement, et ils déplorent aussi cette situation.
Merci.
Ils aimeraient avoir plus de moyens.
Merci.
Je vous remercie de m'avoir donné cette tribune.
Merci beaucoup, Eric. L'union fait la force, comme on dit. Donc, on vous souhaite du courage et puis on continuera de prendre des nouvelles de cette place en effrénée et de la situation des riverains. Pardonnez-moi.
J'avais raison.
Mais vous avez toujours raison.
Non, mais c'est bien parce qu'ils vont manifester devant la mairie. Mais
je suis déjà en retard, en fait.
Qui manifestent aussi devant le tribunal. Comme ça, on pourrait avoir aussi des magistrats qui expliquent leur décision de justice. Il n'y a que les policiers qui rendent des comptes à tout le monde dans cette société. Les magistrats pourraient dire pourquoi ils n'incarcèrent pas les multirécidivistes, par exemple. Ça serait bien d'expliquer l'action judiciaire. Les gens n'y comprennent déjà pas grand-chose. Mais quand en plus ils recroisent les mêmes individus qu'on interpelle 10 fois, ça serait bien qu'on ait des magistrats qui viennent. Ce n'est pas une défiance. C'est une confiance de pouvoir rendre des comptes de l'action publique. C'est dans la déclaration des droits de l'homme, d'ailleurs.
23h32. Je vais me faire taper sur les doigts. C'est passionnant, Mathieu. Vous savez que vous êtes chez vous ici. Je l'ai déjà dit 100 fois. Merci encore à Eric qu'on suivra et qu'on rappellera ses promis. Eric, merci d'avoir réagi. Il est un tout petit peu plus donc de 22h30. Merci Mathieu Vallet. Le rappel de l'actualité, Adrien Spiteri. À tout de suite pour notre dernier thème.
La lutte contre le harcèlement sera la priorité de la rentrée 2023, annonce de la Première ministre Elisabeth Borne. Aujourd'hui, de son côté, Pape Ndiaye a promis des moyens supplémentaires. Il a reçu hier la famille de la jeune Lindsay. Pour rappel, l'adolescente s'est suicidée le mois dernier. Le préfet, responsable de la gestion du fonds Marianne, démissionne. Cette décision fait suite à la publication d'un rapport de l'inspection générale de l'administration. Elle dénonce un traitement privilégié de Christian Gravel réservé à une association. Le fonds Marianne a été lancé en 2021 après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre la radicalisation. Et puis le Real Madrid rend hommage à Karim Benzema. Le président du club, Florentino Pérez, a remercié l'attaquant français à l'occasion d'une cérémonie aujourd'hui. Karim Benzema est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Il a décidé de rejoindre Al-Ittihad, le vainqueur du championnat d'Arabie Saoudite.
Après le suicide le 12 mai donc de l'adolescente de 13 ans Lindsay, victime de harcèlement scolaire, on en parle énormément parce que c'est une affaire qui a ému tout le pays. Devant l'enchaînement aussi des drames autour de ce phénomène, le gouvernement est sommé de réagir. Elisabeth Borne a pris la parole aujourd'hui à l'Assemblée nationale, dit vouloir faire de la lutte contre le harcèlement la priorité absolue de la rentrée 2023. Écoutez-la aujourd'hui.
Nous allons faire de la lutte contre le harcèlement la priorité absolue de la rentrée 2023. Nous allons étendre le programme phare au lycée. Nous allons désigner dès la rentrée dans chaque collège un adulte référent dans la lutte contre le harcèlement. Nous allons protéger davantage les élèves victimes en primaire en ouvrant par décret la possibilité d'écarter d'une école un élève auteur de harcèlement. Nous rendrons obligatoire la formation des personnels contre le harcèlement. Nous augmenterons les moyens des plateformes d'alerte et d'écoute. Enfin, j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, de la Justice et du Numérique d'appuyer le ministre de l'Éducation nationale afin d'être plus efficace dans la prévention et les sanctions contre le harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. Tout acte de harcèlement est intolérable. Nous ne devons rien laisser passer. Ensemble, nous continuons à nous mobiliser pour protéger notre jeunesse. Je vous remercie.
J'ai envie de dire, je vais être encore un peu cynique, Jean-Sébastien, une priorité encore. Généralement, quand on annonce des priorités...
On va enterrer le dossier.
On ne sait pas comment ça termine, surtout. Quand on voit ce que deviennent les différentes priorités de l'exécutif, on peut être dubitatif ou pas? Parce que le programme phare...
Non, on comprend bien que la Première ministre en parle, puisque le suicide de Lindsay a créé une émotion large. Et puis qu'on voit surtout que ça n'est pas un cas isolé, que malheureusement beaucoup d'autres familles, beaucoup d'autres adolescents y sont confrontés. Mais il serait bon quand même qu'elle se concerte avec le ministre de l'Éducation nationale, parce que les priorités de Pape Ndiaye, ça faisait partie de la liste, mais ça reste en premier lieu la lutte contre les inégalités. Et donc... quel est le sens finalement de changer selon l'actualité? Parce que si demain il y a, je sais pas quoi, une enquête qui sort et qu'on se met à parler beaucoup des inégalités, bah alors là encore les priorités changeront. Il y a vraiment
la politique de l'émotion.
Mais c'est pas ce gouvernement spécifiquement, mais c'est le gouvernement à l'émotion. C'est vraiment ça. Le gouvernement à l'émotion, à la séquence de 48 heures sur les chaînes d'information. Après, je trouve que le gouvernement est très en retrait par rapport à ce sujet-là, parce qu'il ne suffit pas du programme phare. Le programme phare, il pouvait avoir du sens.
Permettre de le décrire, le programme phare, à nos téléspectateurs, c'est 5 lignes et je vous rends tout de suite la parole. Le programme phare prévoit la formation d'une équipe de référence d'au moins 5 personnes par collège et par circonscription du premier degré, la nomination et la formation de 10 élèves ambassadeurs au moins par collège et 10 heures de formation par an pour les enfants. C'est comme ça qu'on gère la nouvelle priorité du gouvernement.
Je pense que ça n'est pas
c'est les enfants en fait qui doivent gérer le harcèlement à l'école.
Ça n'est pas une mauvaise chose en soi quand on regarde ce qui a pu être fait
oui,
dans d'autres pays.
Associé
à ce... Mais ça ne peut pas être seulement ça. Et on en parlait déjà, c'est quand même très très lié aux réseaux sociaux. Pas que, mais enfin quand même beaucoup aux réseaux sociaux. En tout cas la nouvelle dimension que ça a pu prendre. Et il n'y a aucune action du gouvernement, notamment sur les algorithmes. C'est ce que je vous disais déjà. Le gouvernement mise sur la modération ou a des exigences sur la modération sur le fait de faire supprimer les messages qui peuvent être violents. Sauf que supprimer des messages violents. En réalité, si très peu de gens les ont vus, ça ne génère pas les effets boule de neige. Le sujet du harcèlement, c'est aussi parce que les algorithmes ne cessent de mettre en avant les contenus. Plus ils sont négatifs, plus ça capte de temps d'attention des utilisateurs, en gros, et plus l'algorithme est content parce que son business model, c'est notre temps d'attention à tous. Il n'y a aucune réflexion absolument là-dessus.
Écoutez cet échange aujourd'hui à l'Assemblée entre la députée LR Alexandra Martin et le ministre de l'Éducation nationale, évidemment de nouveau interpellé sur ce sujet.
Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, oui, le suicide de l'INSEE émeut la France entière et a démontré une fois de plus l'échec de votre politique de prévention contre le harcèlement scolaire et votre manque de considération. Vous avez annoncé que les mesures d'éloignement du harceleur est une solution de dernier recours. La victime subit alors la double peine. Responsabiliser, c'est faire prendre conscience au harceleur de son délit. C'est à lui qu'il revient de quitter l'établissement, pas à la victime. Quant à la communauté éducative, quand sera-t-elle formée pour ne plus considérer le harcèlement scolaire comme une affaire d'enfant? Quand sommerez-vous les réseaux sociaux d'agir? Quand prendrez-vous les mesures pour garantir le droit inaliénable d'étudier en sécurité?
Est-ce que la situation est satisfaisante? Est-ce que le programme s'est déployé partout de manière homogène? La réponse est non. Nous avons du chemin à faire. Je l'ai dit, je l'ai répété, je veux bien vous le dire une nouvelle fois. C'est un travail patient, c'est un travail qui demande de la mobilisation, c'est un travail qui demande des moyens. Et nous sommes et nous faisons des questions de harcèlement une priorité.
C'est fou parce que l'éducation nationale semble toujours en retard d'un coup, en fait, avoir un coup de retard sur toutes ces questions-là.
Bah, si vous voulez, c'est surtout la doctrine de l'institution qui est à revoir. C'est pour ça que l'idée d'en faire une priorité gouvernementale en soi est absurde, parce qu'il faut changer la doctrine d'une institution qui est l'éducation nationale. Et donc, vous n'avez pas besoin de mobiliser la cour et l'arrière-cour du gouvernement. Il faut aujourd'hui modifier ce qui se passe dans ce ministère. Le deuxième élément, et là je rejoins ce qui a été dit et ce qui a été dit également par Madame la députée, c'est qu'il y a un sujet réseaux sociaux. Et là, il y aura en effet une vraie volonté politique à avoir pour arriver à rentrer dans un bras de fer et avec Twitter et avec Facebook et avec toutes les plateformes.
On n'a jamais entamé ce bras de fer. Là, non, il n'y a pas le début d'un bras de fer avec
mais non seulement on n'a pas
ces géants, les GAFA
fer,
dont on parle
en plus,
régulièrement.
On a une peur terrible, terrible dans le monde politique de rentrer dans un bras de fer parce qu'évidemment, tout d'un coup, il y aurait des idées qu'il y aurait censure, etc. Or que là, il suffit simplement de faire respecter la loi.
Mais bien sûr, le problème, c'est qu'ils ont peur de se confronter au dossier.
Là, il y a un vrai, vrai sujet.
Allez, il nous reste, je suis désolé, quelques secondes seulement les amis. Un dernier mot pour Karim Abric et pour Mathieu Vallet sur ce sujet avant la dernière image.
Non, mais on nous parle de prévention dans les écoles, de former des élèves, de former du personnel, mais on ne nous parle pas de sanctions. Ça devrait être assez clair que vous vous livrez à du harcèlement, il y a des conséquences. Alors, est-ce que ça passe de la suspension de quelques jours, l'expulsion pour les élèves qui commettent justement ces actes de harcèlement? Donc, il y a véritablement les sanctions et ça, ce n'est pas du tout avancé par le gouvernement.
C'est bien de manier des grands concepts. Je pense au chef de l'État qui parle de décivilisation, mais derrière, mettons les choses en application. L'idée, c'est que ça ne se reproduise pas. Mathieu Vallet, une conclusion?
Vous savez que moi, je suis très attaché aux victimes et je considère que ce pays les maltraite, les déconsidère et que ça deviendra du carrosse. Moi, ce qui m'a marqué, j'ai écouté chez Pascal Praud le témoignage des parents du père et de la mère de l'INSEE hier soir. C'est que quand ils ont rencontré le ministre de l'Éducation nationale, il y a eu une déshumanisation telle qu'ils le décrivent et ils avaient l'impression de parler à un mur. Et je pense que quand on a été victime de la perte d'un enfant, ce qui est horrible, on n'a pas envie d'être une deuxième fois victime de l'inhumanité dans une écoute ou dans une prise en charge qui est totalement vitale pour qu'au moins, à défaut de pouvoir se reconstruire, il y ait une considération du statut de victime qui est cruellement en défaut dans notre pays.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Je ne vais pas vous laisser sur une info et des considérations aussi lourdes. Vous savez que j'essaie de vous libérer un petit peu l'esprit avant d'aller vous coucher. C'est la dernière image, donc je le rappelle, l'image légère pour conclure la soirée. J'ai décidé de vous faire une semaine spéciale pêche. Si vous étiez avec nous, je vous ai montré un pêcheur sportif qui avait pêché le plus gros silure du monde, 2,85 m de mémoire. Là, je vous emmène dans un stade de foot. Vous m'avez dit quel rapport? Allons-y. C'était la finale, la demi-finale de l'UEFA Conférence à Reggio d'Emilie dans le nord de l'Italie. Ce qui a marqué les spectateurs, c'est pas le match, c'est ce supporter de la Fiorentina qui a réussi à pêcher un poisson dans le stade. Alors comment est-ce possible? Écoutez-moi bien, le stade de la ville en fait a une particularité depuis 1995, il y a des douves qui séparent les tribunes du terrain pour empêcher aux supporters d'aller sur la pelouse. Et ben désormais, des poissons vivent dans ces eaux qui sont tout autour du stade et donc courant de voir des spectateurs qui tentent de pêcher des poissons pour s'amuser. Remettez-la moi juste un coup s'il vous plaît les amis. C'est d'ailleurs pas la première fois que des fans y parviennent, c'était déjà arrivé deux fois en 2019 et en 2021. Alors je rassure, je sais pas si on l'a vu sur l'image là parce que j'avais le nez dans mes fiches, mais le poisson a vite été relâché. Évidemment, ce supporter a un grand cœur et il a laissé le poisson vaquer.
Étonnant,
Jean-Sébastien, c'est une des meilleures de l'année celle-là.
Non, mais ah oui, il vaut mieux ça que voir les images d'Enzo. Hein. Effectivement, ça pourrait peut-être être une solution à déployer partout.
Évidemment.
Bah, il a l'air radioactif, le poisson, il a une drôle de couleur, donc c'est peut-être pour ça qu'il l'a relâché.
Non, c'était
aussi,
un petit poisson, c'est une sorte de petite carpe japonaise là, vous savez, on aime beaucoup. Voilà, c'est sur cette image essentielle. Il y a beaucoup de bien Mathieu Vallet, je le sens, que l'on referme ce soir info. Merci beaucoup à Lumna Daoudi qui a préparé cette émission. L'édition de la nuit, c'est avec Simon Guilin ce soir. Nous sommes d'accord, Charles Lumna, merci beaucoup. On va se retrouver demain pour Soir Info. Alors, bonne nuit à tous.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.